Barça à PSG, quel sera le score final? Mélisande Gomez.
1-3.
Ludovic Aubagnac.
1-2, Paris en prolongation.
Et après? Et après, après, score final, score final.
1-3.
1-3, merci. Voilà. Il y aura, à mon sens,
à mon sens, il y aura 1-4 pour le Paris Saint-Germain avec un très grand kicks.
Jérôme Alonso.
1-2, 1-4.
1-2, 1-4. Et enfin, le président.
1-3.
1-4, 1-6.
C'est l'équipe du soir. Bonsoir. Paris verra les demi. Paris a fait une remontada à l'envers pour une fois sa souris au Paris Saint-Germain. 4 buts à 1 pour le Paris Saint-Germain. Mes amis, dans quelques minutes, les images. Le plateau est plutôt content ce soir. On va voir. On va prendre le pouls du plateau.
C'est magique.
Mes amis, la qualification du Paris Saint-Germain est-elle ce soir historique? Vous aurez à répondre à cette question. Le MVP du soir, c'est pour qui? On aura Mbappé donc, qui a ronronné pendant la première période mais qui s'est offert un doublé en deuxième période. Est-ce une résurrection? Les notes de l'équipe du soir, on pourra noter Luis Enrique, on pourra noter tous les joueurs que vous voulez. Et puis en demi-finale, Paris continue sa route, PSG contre le Borussia Dortmund. Tiens, les deux équipes s'étaient croisées déjà lors de la première phase. Mes amis, juste les images avec vous, Virginie Saint-Cily.
Pas le pronom, on n'insiste pas plus.
Excusez-moi.
Tous les week-ends, maintenant, on n'insiste plus.
Bertrand.
Week-end le mardi.
Vous aurez les deux jokers pour le quiz.
Non, mais à chaque fois, si le jeu est organisé, parce que la semaine passée...
4-1, mais après prolongation.
Bah oui.
On a trop de choses à dire pour faire une pas duel. Moi, je...
Comment?
Je fais plus rien, quoi.
Comment?
Il y a déjà les deux jokers.
Oui, ouais, deux jokers. Hein.
Donc, c'est pas les points.
J'ai annoncé trois buts.
Mais
c'est bon, j'arbitre plus un duel.
Avec l'annonce du Kicks. C'est-à-dire que c'est pas un prono, c'est une analyse aussi.
Ah, t'as vu un grand Kicks.
Ah, bah, doublé, attends, sur la feuille de stade, ça compte.
The Kicks. Attention, mes amis, le résumé de la rencontre. Il est 23h03. C'est à vous, Virginie.
Accrochez-vous, ça va aller très vite. Ça démarre mal avec la percée de Yamin Lamal. À la 12e minute, il élimine Nuno Mendes. Sans trop premier poteau, Rafinha devant Hakimi pour couper de près. Puis le Barça se retrouve à 10 à la 29e. Araújo est expulsé pour accrocher Barcola. Décision logique qui réveille les Parisiens. 40e, Vitinha pour Barcola qui centre à ras de terre. Le ballon arrive sur Dembélé qui reprend du droit sans contrôle. 54e, l'espoir renaît sur ce corner joué court par Dembélé vers Hakimi qui donne à Vitinha frappe puissante pour remettre les compteurs à zéro avant de passer devant à la 60e. Pénalty transformé par Mbappé. Et puis l'action de la fin complètement folle avec un double sauvetage de Ter Stegen et une reprise de Kylian Mbappé pour le doubler. Les Parisiens sont qualifiés ce soir.
Mais sont qualifiés pour le dernier carré de la Ligue des Champions. Attention, ça va passer, c'est Bertrand Latour. Et vous êtes heureux, vous êtes comment ce soir les copains après la rencontre? Jérôme Alonso, le Parisien.
Ouais. Très heureux parce que...
Un peu marseillais.
Pardon?
Un peu marseillais.
Un peu marseillais, c'est-à-dire
il est très parisien, mais aussi un peu marseillais.
Ben, je suis très content. Je suis très content parce qu'on a vu un super match, on s'est régalé, parce que ça nous offre d'autres soirées à vivre ensemble.
Ouais.
Ça, c'est quasiment le plus important. Parce qu'on se disait...
C'est pas qu'un club français.
C'est la camarade.
Jérôme, pardon, vous étiez inquiet pour votre quota de pige?
Non, on les fait quand même. On les fait quand même.
Ça va.
Non, je suis très heureux.
C'est sûr.
Elle est rassurée.
Je suis vraiment heureux.
Il a appelé maman.
Il y a une perspective d'aller
en vacances.
Il y a une vraie perspective d'aller encore plus loin en plus. Donc voilà.
PSG Dortmund, évidemment.
Évidemment, très très heureux pour toutes ces raisons.
Ce sera l'affiche. Johan Micou, généralement, vous n'êtes pas celui qui
commence.
Il a sauté en l'air tout à l'heure.
Non, mais t'es pudique, il a sauté en l'air. Il a affiché tes émotions.
Parce que je dis que je ne suis pas supporter, donc je suis là pour analyser le truc.
Oui, d'accord.
Je n'ai pas sauté au plafond, non.
Et là, vous ne sautez pas au plafond.
Si, non, c'est une très belle histoire.
Non, je ne vous demande pas de faire une cabrique.
Après, est-ce qu'on doit parler de ça ou on parle du match?
Oui, on peut parler du match et on va parler du match. Mais Ludovic Aubagnac.
Non, mais on le sentait venir quand même à la mi-temps. On sentait que ça allait basculer par rapport à la domination parisienne.
Oui, c'est vrai.
Donc c'est presque une logique ce soir que ce résultat.
Qu'est-ce qui arrive du côté de l'équipe du soir? C'est la porte de Saint-Cloud qui débarque. J'ai l'impression.
Je tenais mettre un carton rouge à monsieur Bertrand Latour.
Tu le sais pourquoi? Tu le sais!
Il est en rouge et bleu, il est en rouge et bleu!
Mais tu sens même! Oui!
Bon, voilà. Allez, faut rentrer chez vous maintenant.
Voilà. On va rentrer, t'inquiète pas! tu vas venir avec nous.
Vous avez vécu comment la grande soirée? Vous le sentiez venir? C'était juste les premiers propos de Jean Mico à la pause. Vous à la grande soirée, comment vous avez vécu ça là, cette
Moi, avant, non mais plus sérieusement,
Dev a dit 3-1.
Avant le début du match, je pensais que Paris pouvait le faire.
On s'en va.
Parce que non,
regardez-nous. Écoutez, Dave.
Pour une seule raison, je me suis dit, avec le match aller où ils ont été complètement à l'envers, si ce n'est un quart d'heure, ils reviennent avec ce résultat-là. S'ils jouent ne serait-ce qu'une heure, eh ben ce serait bon. Alors après, Araujo a fait le reste. Mais je trouve quand même que Paris sur franchement a montré ce qu'il fallait.
Il y a deux actions, alors, c'est quand on est, il y a encore un but d'avance pour Paris Saint-Germain sur l'ensemble des deux matchs. Et il y a ce miracle de Donnarumma sur cette frappe. Et là, il y a Marquinhos. On pense qu'il va avoir le but pour le Barça prolongation. Et là, Marquinhos qui fait un arrêt, qui fait comment? C'est un arrêt quasiment. Il arrive à délier le ballon. Et là, il fait ça. Et c'est quasiment pour moi le moment qui montre ce qu'est c'est Paris Saint-Germain, ce qui montre aussi la solidité de cette équipe. Marquinhos qui est toujours là, Donnarumma en dépit de quelques erreurs qui fait ce sauvetage. Marquinhos qui fait ça avec
on va en boîte, c'est mieux maintenant.
La mèche.
C'est Claude François.
C'est mon retour à l'équipe du soir depuis 5 ans. Ah, je suis en prison. Non, je suis pas en prison. Je suis plus en prison.
Bon. Vous pouvez y aller, Johan.
Merci les amis. Merci.
On y va,
bonne émission. On reviendra pour la demi-finale.
Mais oui, voilà, mais il y a plein d'émotions ce soir.
C'est beau.
Mes amis, on va parler du match à présent. C'était le souhait de notre président. La qualification du PSG est-elle ce soir historique? Habillage parisien. Et puis on y va. Est-ce que c'est historique ce qu'on a vécu ce soir? Oui ou non? On peut y aller. Mélisande Gomez, oui ou non?
Historique?
Oui, historique?
Non.
Non? D'accord, non. Est-ce qu'on peut avoir les droits sur le... Oui, bah vous mettez ça, mais vous avez aussi... voilà, mais ils ont quand même commencé l'émission en régie. Ludovic Obraniak, oui ou non?
Elle l'est.
Elle l'est, c'est un oui. Monsieur Latour, oui ou non?
Non.
Non? Monsieur Alonso.
Évidemment.
Évidemment. La qualification du PSG est-elle ce soir historique? Président, toujours le petit regard coquin, toujours l'anglais, le mot d'anglais.
Jingle.
Tu fais pas comme...
Ah non, j'ai un autre truc.
On dit nous jingle. Avons Mélisande associée à Bertrand Latour. Qui commence? Est-ce Méli Mélo ou est-ce le Bertrand?
C'est Mélisande, je pense. Mélisande. C'est celle de Désir, évidemment.
Oui, ouais, d'accord.
Attends, c'est un vice-bébert.
Ok, très bien. C'est un, c'est, ce n'est plus un duo. C'est carrément un couple. Ludovic Obraniak et Jérôme Alonso ont répondu oui. Qui commence?
Le vieux d'abord,
c'est
le
mon G qui va.
D'accord, le G. Voilà. La qualification du PSG est-elle ce soir historique? Jérôme Alonso va débuter. On vous écoute.
Historique, c'est quand tu convoques l'histoire. Et Paris ne l'avait jamais fait. Donc rien que pour cette raison, oui. Historique parce que moi, dans ma notion à moi d'historique, il y a tout ce que ça implique comme émotion. Ce soir, j'ai tout eu. Début de match raté, ce premier but, la réaction, le carton rouge, les arrêts de gardien. Il y a tout eu chez moi, ce qui provoque l'émotion et forcément le côté historique. Pour toutes ces raisons, je dis oui. En plus, ça ouvre des perspectives fantastiques. Donc évidemment, cette qualif est historique.
Ok. Mélisande Gomez, vous répondez non. Quels sont vos ou votre argument?
Parce que je ne trouve pas que ce soit un exploit inoubliable que d'éliminer ce Barça-là dans ces conditions-là où ils ont quand même ce carton rouge, qui est logique, hein, et où ils offrent un pénalty sur une erreur grossière de Cancelo. Et du coup, je trouve que Paris a largement mérité sa qualification, mais que maintenant, on les attend à l'étape d'après. C'est un club qui est programmé pour gagner la Ligue des Champions. Ils sont en demi-finale et c'est une énorme réussite, mais c'est pas historique. Ils sont déjà en demi-finale de Ligue des Champions. Ce sera historique le jour où ils la gagneront. Et c'est juste une super étape de franchie et on attend la suite.
Ah, historique, ils sont en demi-finale, c'est déjà un palier qu'ils avaient passé, donc pas historique. Pour vous, Ludovic Obraniak, vous dites oui?
Historique parce que les faits, parce qu'ils n'avaient jamais retourné comme ça, s'être qualifié sur un match retour à élimination directe. Historique parce que cette équipe, on ne l'attendait pas à ce niveau-là, et encore moins après le match aller, et que sur un match qui s'est joué sur l'émotion, je ne pensais pas que ça se jouerait à ce point-là, je pensais que ça serait plus tactique. Le Paris Saint-Germain est souvent renversé et balayé lorsqu'il y a un peu trop d'émotion dans un match, et bien là, c'est eux qui ont été les plus solides, c'est eux qui ont raflé la mise et qui ont gardé leur calme et qui ont renversé les Barcelonais. Donc on a assisté à un superbe match. Moi, je vois pas ce qu'il faut de plus pour employer le mot historique.
Ok, vous dites non. Pourquoi? Quels sont finalement justement les petites choses qui vous font pas basculer, Bertrand?
Parce que la soirée, elle n'a pas été irrationnelle. C'est-à-dire que le match s'est dessiné malgré l'ouverture du score du Barça. Et on a très vite senti, d'ailleurs, tous les pronostics à la mi-temps allaient dans le même sens. Chacun pensait que le Paris Saint-Germain allait se qualifier. Le Paris Saint-Germain est au rendez-vous. C'est un des plus gros budgets européens. Ils battent une équipe du Barça qui n'est pas légendaire. Effectivement, ils n'ont pas réalisé de remontada non plus. Ils n'avaient pas 2-3 buts d'écart. Et donc le scénario était assez lisible. Donc c'est une magnifique performance. Maintenant, on espère pour eux qu'ils battront Dortmund pour se retrouver en finale. Mais je vois pas ce qu'il y a d'historique là-dedans.
Oh, vous avez encore, excusez-moi, 3 dixièmes, Bertrand ou Mélisande, mais alors faut aller vite. Hein. Ou personne ne merci. Hein.
Faire aussi vite, je sais pas.
Faut pas qu'il joue, pas qu'il s'enfonce.
Est-ce que c'est historique pour vous? Vous allez sur le site L'Équipe. Si c'est oui, vous basculez avec Ludovic et Jérôme. Si c'est non, vous avez finalement quelques petites réserves à l'emploi de ce terme historique. C'est Bertrand et c'est Mélisande. Président, c'est à vous de jouer. Président, vous allez trancher sans faire de saut périlleux arrière. Hein. Ce n'est pas dans votre contrat. Merci, Président.
Il va se faire mal, en plus.
Si on voit les deux résultats, on va dire que c'est historique. Parce que d'aller gagner 4-1 à Barça, c'est quand même assez historique. Après, dans le contenu du match, je pense que par rapport au déroulé, on le sentait plus venir. Moi, ça me paraît d'une logique implacable ce soir. On voyait pas comment le Barça, dès les 5 premières minutes, pouvait défendre toute une mi-temps sans encaisser de but, quoi. Avec ce pari qui était bien organisé, qui n'a pas paniqué et qui a essayé de trouver des solutions et qui se créait énormément d'occasions. Donc on se disait qu'à un moment donné, ça allait craquer. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à le mettre dans l'historique. Et puis il n'y a pas eu de renversement de situation où le PSG est éliminé. Si, ça a duré très peu de temps. Mais même quand ils
la frappe de
20 mètres, c'est pas une frappe de
4 mètres. Et les prolongations.
Même quand ils étaient encore éliminés sur la première mi-temps, on sentait pas qu'ils étaient déjà en panique et on sentait qu'ils étaient supérieurs, quoi. Sur d'autant plus qu'il y a eu l'expulsion d'Aroron. Et je trouve que le PSG est monté ce quart de finale. D'une manière, d'une logique implacable. Quoi. Je le mettrai pas dans les côtés historiques.
Demande audience.
À vous.
Tu vois, l'historique pour moi, c'est le retournement du PSG Real. Est-ce que ça rentre dans l'histoire parce qu'il y a un truc où tu te qualifies, les autres remarquent derrière, 3-1. Et toi tu vas mettre ce dernier but qui te qualifie vraiment. Donc ça, c'est historique.
Si on s'en tient strictement au mot historique, quand tu réalise une performance que tu n'avais jamais réalisée avant.
Oui, alors ça, j'ai hésité par rapport à ce que vous avez dit.
Voilà, moi j'ai commencé par ça d'ailleurs.
Je suis d'accord avec ça parce que c'est jamais arrivé de retourner un truc comme ça.
Sauf que dans les faits, de se qualifier quand t'as perdu l'aller, c'est hyper. Regarde ce soir. De plus en plus souvent.
Dans l'histoire du PSG.
Non mais regarde ce soir, Borussia Dortmund, ils se qualifient.
Mais dans l'histoire du PSG.
Non mais dans l'histoire du PSG, mais tu sais que le PSG maintenant c'est une grosse équipe de Ligue des Champions.
Oui, mais dans ton histoire.
Ils ont davantage de chances au tirage qu'ils l'ont eu les dernières saisons. Ils ont des faits de jeu qui leur ont été favorables et ils se sont mis au niveau collectivement et mentalement effectivement. Tu les sentais sûrs de leur force dès le début du match. Et pourquoi aussi parce que t'as perdu l'aller et du coup t'as pas grand chose à perdre de plus rapport à tout ce que ça convoquait dans leur histoire récente de remontada, de trucs. Au moins cette fois il n'y avait pas cette histoire là et ils sont allés la chercher.
Mais j'ai interpellé sur le mot historique tout simplement.
Historique, c'est et donc s'ils gagnent la finale, tu vas dire que c'est quoi?
C'est surtout sur l'historique.
Ce sera historique.
Mais là tu l'as jamais fait. Sur un quart, on parle pas d'un match de poule. On parle d'un quart de finale que tu as perdu chez toi. Tu ne l'as jamais fait dans l'histoire d'un club.
Mais t'as perdu 2-1.
Ils n'ont jamais gagné quand tu fais 6-8.
Bon, ils avaient déjà gagné.
3-2, mes petits. Justement.
Non, mais 3-2 avec le nouveau règlement. Donc tu as pas 2 buts à remonter. Juste un but, t'es ex-écho.
Virginie, on a bossé et vous avez bossé sur finalement les matchs couperets lorsque Paris perd des matchs. Voilà. Et qu'est-ce que ça donne?
L'aller. Oui. Alors déjà, Paris n'avait jamais renversé un adversaire lors d'un match retour quand le score du match aller à domicile lui était défavorable. Mais Paris s'est déjà qualifié en ayant été abattu à l'aller quand l'aller s'était joué à l'extérieur et le retour à domicile en 93 contre le Real, en 96 contre Parme et Galatasaray et en 2020 contre Dortmund.
Voilà, donc ça fait la cinquième fois quand même. Seulement la cinquième fois que Paris arrive à retourner un score et la première fois dans cette configuration-là. Pour dire historique aussi, il faut connaître aussi l'histoire de ce club. Il y avait un argument.
Déjà fondé, on ne parle pas d'un club qui est centenaire, il a été fondé dans les années 70. Déjà par définition, l'histoire est assez courte. C'est-à-dire, c'est pas l'histoire de club, c'est pas le club doyen de la Ligue, c'est pas le Havre. Donc, je veux dire.
Oui, exactement. Pas le Havre en Coupe d'Europe.
Mais d'accord, ou l'Olympique de Marseille, je parlais du club doyen.
Le Havre qui battrait le Barça, 4-1, c'est pas historique. On le fait régulièrement au Havre de de battre le Barça 4-1.
Surtout quand vous ne les jouez pas, en effet. Il y avait un argument qui a été utilisé, qui n'a pas été débattu par le camp d'en face.
Ils étaient à la rue là-dessus.
Non, mais c'est un bon argument de Ludovic Obraniak.
Beaucoup de bons arguments.
C'est sur la gestion des émotions.
Oui.
Et la gestion des émotions, on a passé pas mal de moments avec ce patient du Paris Saint-Germain.
Voilà.
Dans des qualifications, dans des émulations
piteuses.
Là, sur l'émotion ce soir, sur la gestion des émotions,
parce que les planètes se sont alignées, mais la gestion des émotions, moi je trouve qu'ils ont très bien débuté le match. Effectivement, ils ont bien réagi après le but, ils auraient pu, en plus, il y a le cas de Lewandowski. Et derrière, tu te retrouves à 11 contre 10. Et donc ça t'aide un petit peu.
Il y a déjà des équipes qui
ça t'aide un petit peu à pas paniquer et à te sentir plus serein, surtout collectivement, tu vois, que t'es meilleur qu'eux.
Non, mais.
Ils font sortir Xavi du match. Ils font sortir tout le monde du match. Eux, ils gardent leur calme. Ils perdent 1-0.
C'est vrai.
On les a pas vus énervés. Ils reprennent le fil du match tranquillement. Pour une fois, et c'est à souligner quand même.
Mais d'habitude, 11 contre 10,
d'habitude dans ces matchs-là, ils partent dans tous les sens.
Mais moi, je pense que quand tu joues l'Atlético, t'es 11 contre 10, ça peut devenir un vrai problème. Tu joues l'Inter Milan 11 contre 10, ça peut devenir un vrai problème.
Mais t'as vu que les Barcelonais.
Tu joues le Barça qui ne sait pas faire autre chose que essayer de construire à jouer et qui n'est pas dans une
Mais t'as vu qu'ils ont essayé. Ils ont essayé de truquer. Et ils sont pas tombés dans le panneau.
Ils n'ont pas truqué longtemps.
Ah, à un moment donné, ils ont essayé sur des coups de coude, Gundogan qui essaye quand il tombe. Ils ont essayé à un moment donné de retourner le match comme ça. Les autres sont restés nickel chrome.
Giovanni Castaldi, notre envoyé spécial, avez-vous vécu ce soir un moment historique? La question est débattue en plateau. Et pour vous ce soir, là, vous êtes comment? Bonsoir, Joe.
Un coup de soleil, non?
Bonsoir Mémé, bonsoir à tous. Coup de soleil, je sais pas, il a fait beau aujourd'hui à Barcelone. Et oui, bon, moi j'ai le sentiment d'avoir passé une soirée historique dans la mesure où avec tout ce qu'on a entendu récemment sur le Paris Saint-Germain, moi le premier, déjà j'étais sceptique avant la rencontre. Je trouvais que c'était une équipe qui était jeune, je trouvais que c'était une équipe qui était tombée sur plus forte qu'elle, pardon, à l'aller. Et quand ils prennent le but, honnêtement, 1-0, je me dis, mais voilà, ils y arriveront pas. Et je les ai trouvés, je suis totalement d'accord avec Ludo. Alors ok, les éléments de jeu, ils sont favorables, mais il les provoque. Je les ai trouvés exemplaires dans le comportement, dans le combat, dans l'agressivité. Marquinhos, que j'ai constamment dézingué depuis 3 ans, que je trouvais absolument atroce de nervosité dans ce type de rencontre. Ce soir, il a fait un très gros match. J'ai aimé l'agressivité dès le début du match de Lucas Hernandez, des petits coups sur Lewandowski. Non, ils ont été exemplaires. Bravo à eux. Ils sont allés tout chercher. Alors, on pourra, sans 7 ans, dire que c'était pas un grand Barça. Effectivement, c'était pas une équipe légendaire. Mais le faire dans ce contexte-là, avec le passif qu'il y a récemment pour une équipe qui a changé à 50% cet été, avec un nouveau coach, de faire ce qu'ils ont fait ce soir dans le contexte, un grand coup de chapeau à eux. Et moi, c'est un truc que je me souviendrai toute ma vie. J'y étais ce soir-là. Pareil, qui s'est fait taper au parc et qui a retourné le FC Barcelone dans ces conditions-là. On est en menée 1-0 dès l'entame de la rencontre, alors qu'ils font 5 très bonnes premières minutes. Je m'en rappellerai, ça c'est sûr.
Juste, vous restez avec nous, vous écoutez.
Non, moi, je suis d'accord sur tout ce que vient de dire Giovanni, mais pas sur le début. Même quand ils étaient menés, je trouve pas que le Barça fait un gros match, quoi, sur cette première mi-temps. Même à un moment donné, on se regardait, on se dit, au bout de 20-25 minutes, on se dit, le Barça, ils ont quand même vraiment de la réussite, quoi. Ils ont une demi-occasion, et quoi,
la seule
action où ils vont un petit peu dans la surface du PSG, ils marquent. Donc,
la question, c'est qu'avec les 2 buts d'avance, pour le Barça, même s'ils sont pas. Tu te dis, Paris peut revenir à ce moment-là. Tu te dis Paris pour
parce
revenir.
Que moi je trouvais que Paris était dans le match, ils étaient là. Après bon c'est un fait
Paris
de match.
Paris dans le match.
Ouais.
On ne sait pas s'ils peuvent revenir. Mais Paris dans le match.
Mais ils étaient là quoi dans l'état d'esprit comme a dit Giovanni. Moi j'ai trouvé qu'ils jouaient très haut, que Marquinhos était. Moi aussi j'ai plutôt tendance à dire qu'il fait reculer l'équipe là. Il était avec Hernandez, ils étaient là au pressing. Les mecs n'arrivaient pas à ressortir le ballon, donc on sentait qu'ils étaient là. Après ils prennent ce but, c'est un fait de match, mais ils sont restés dans cette idée là. Il n'y a pas eu de panique à bord, ça c'est vrai. Mais sur l'ensemble de ce match-là, alors après, ils ont l'avantage avec l'expulsion encore plus. Mais j'ai senti qu'ils étaient bien présents sur ce match, quoi.
Alors, une expulsion d'Arojo autour de la 29e minute. Merci Bertrand.
Bien sûr.
Le chrono ce soir. Et puis un penalty.
Offert.
On va dire offert par Cancelo qui fait une faute alors que Dembélé ne s'ouvre pas le chemin. Non, mais est-ce que c'est là, juste comme ça, quand on regarde un peu cliniquement, est-ce qu'on se dit que le Barça a filé? La qualification.
Non,
parce que de l'autre côté.
C'est aussi parce qu'ils sont à la rue.
Ils ont perdu les pédales.
Ils perdent les pédales.
2 minutes avant,
Paris était allé chercher, tu vois.
Exactement.
Ce sont des
faits de jeu provoqués.
Exactement.
Faits de jeu provoqués. Ça veut dire que tu as le fait de jeu où c'est une boulette où rien ne se passe et le mec va te faire une main ou un truc. Là, l'expulsion, elle est quand même que Barcola, il fait la bonne course, il passe devant. Et qu'après, il provoque la mauvaise décision d'Arojo. Et qu'après, ils sont tellement à la rue avant le pénalty que le mec il fait un geste défensif qui est absurde parce que t'as le joueur qui est dos tourné au but, qui va sortir de la surface et où là le contact il est
Xavi se fait expulser 2 minutes avant.
Bien sûr, oui.
Donc ça contribue aussi à mettre de la nervosité dans ce match-là.
Ils prennent le bouillon sur cette séquence-là.
Il se fait expulser en mettant un gros coup de savate dans le.
Il a pas eu besoin que Xavi prenne la rouge pour péter. Il est capable,
c'est quand Silo. Ça contribue à la nervosité ambiante quand tu vois ton entraîneur comme ça. Tu vis ça comme une injustice.
Pour moi, ça c'est de la. Pour moi, ça c'est de la flûte parce qu'en fait, ça.
La flûte avec.
Ouais, exactement. Pour moi, ça c'est des analyses totalement réversibles. C'est-à-dire que si derrière ça se passe mieux, on dit, eh ouais, donc là, électrochoc, le mec, le. Mais si, parce que je t'assure, c'est comme les entraîneurs quand ils sont sur le banc, ils sont flegmatiques. Quand ça se passe mal, on dit, les mecs, les spectateurs, ils font rien. Après, quand ça gagne, c'est. Non, mais
tu
transmets le calme à ces joueurs.
Bertrand, tu perds ton coach.
Mais tu perds ton coach dans tous les cas, tu les entends pas. Vos coachs, vous les entendez jamais. Toi, t'es joueur couloir éventuellement. Avec le bruit que tu fais, machin.
Ludo, en revanche, c'est que l'attitude de Xavi, elle te montre qu'à ce moment-là, ils sont tous dépassés. Ça veut dire juste que, effectivement, Paris a mis tous les ingrédients du début à la fin, malgré le but encaissé, que l'expulsion, elle est quand même grâce à Paris, que le penalty, il est grâce à Paris.
Moi, je suis entièrement d'accord avec ça.
Et que, effectivement, Xavi, lui, il vrille, et ce qui est très rare. Parce qu'ils sentent qu'il a plus d'issue dans ce match-là.
Non, mais ils sont dépassés depuis un moment, Barça.
Oui.
C'est pas uniquement à ce moment-là qu'ils sont dépassés. Moi, je trouve qu'ils sont dépassés depuis un moment.
Le 0, il est bien payé.
Ah oui, non, mais c'est ce qu'on disait. Et après, moi, je te dis, en plus, en perdant un joueur, les mecs déjà n'arrivaient pas à sortir le ballon. Parce que moi, je trouve qu'en fait, le PSG a étouffé le Barça. Ils ont fait vraiment un pressing très, très haut. Et tout le monde a suivi. Donc c'est ce qui a permis le milieu de terrain du Barça où on disait c'est largement au-dessus de Paris.
Avant le match,
on les a pas vus. Ils ont été étouffés. Ils n'arrivaient pas à sortir une balle.
Gundogan, on l'a vu un moment sur une frappe.
Celle qui tape le ballon. Et tu vois, ils ont souvent allongé sur Lewandowski. Et le ballon revenait direct, quoi.
Juste sur la gestion des émotions, je reviens, hein, c'est mon côté Colombo. Je me suis posé des questions sur la gestion de l'égalisation à la 54e minute, au moment finalement où Paris revient, on va dire, à hauteur. C'est-à-dire comment ils vont se comporter. Et puis après, la gestion de la qualification, au moment où il y a le 3-1. Là, c'est des moments clés dans une rencontre. Comment vous avez trouvé nos amis parisiens? Est-ce que ça flottait? Est-ce que ça flottait pas?
À 3-1, moi, je trouve.
Oui. À 3-1, il y a un flottement.
Très bien, très bien pour aller chercher la qualif.
Ça continue, 5 minutes.
Et après
la frappe sur le poteau, elle vient à 3.
Puisque tu n'as pas eu, t'as pas breaké, ton quatrième but arrive très tard, il y a un moment donné où tu as quelques pertes de balles, un peu de déconcentration, sans doute le fait que tu dises on est proche de réaliser une super perf, un peu le bras qui tombe un peu.
Que faire?
Et bon, il y a un enjeu, sinon, parce qu'il y a péno, parce que
Donnarumma en plâtre, Lewandowski.
Mais voilà, il y a cette situation-là.
Le tournant, c'est le retour de Marquinhos.
Le poteau, le retour de Marquinhos. Il y a quelques situations qui font que. Mais donc, je les ai trouvés mieux à 2-1 qu'à 3-1.
Juste, mes amis, évidemment, vous êtes nombreux certainement à nous suivre. Je regarde. Oh là là, c'est fantastique. C'est des audiences d'une chaîne comme TF1 ou France 2, il faut citer les autres marques. Hein. Les notes de l'équipe du soir. Vous allez sur le site de l'équipe, il y a tous les joueurs qui vont s'afficher, vous notez, et puis on prendra rendez-vous un moment avec les copains de l'équipe du soir. Il y a la première action. C'est pas d'un joueur, c'est pas l'entraîneur.
Ah, le président.
C'est le président du Paris Saint-Germain. Virginie, c'est à vous.
On attendait ce moment, on est un grand club. Voilà ce qu'il a dit Nasser El Khelaifi. On a fait un grand match malgré les critiques après le match aller. On était prêts pour ce moment.
Voilà, on est un grand club, on a fait un grand match malgré les critiques après le match. Quand on dit on est un grand club, est-ce qu'il faut le lire avec l'inimitié ou la haine envers le Barça?
Tout dépend de la question, non?
Il boit du petit lait.
Ça, c'est sûr qu'il boit du petit lait parce qu'on n'a pas la chance d'avoir ses analyses après chaque match. Là, effectivement, sort de qualif.
Généralement, il n'écoute pas beaucoup les questions, Nasser. Nasser, il arrive et il sort son truc. Général. De toute façon, Paris qualifié, Paris vous êtes heureux. Enfin, voilà.
Non, mais jubile parce que c'est contre Barcelone, c'est sûr. Et qu'on sait qu'il y a des inimitiés entre les deux dirigeants.
Voilà.
Mais bon, je pense qu'il ne veut pas dire non plus que le Barça est un petit club.
Après, dans la tribune, ils ont montré quelques images. Il a été très classe, très feutré. Il s'est pas levé quand il y a eu les buts à en faire des tonnes. Il est resté.
Ah, vous aviez vous une caméra
On avait des plans avec.
Il y avait des plans. Et je trouve qu'à la fin même, la première chose qu'il fait, c'est d'aller saluer Laporta sans excès de. J'ai trouvé ça plutôt classe.
C'est un président qui apprend. Hein. Ouais, on se souvient qu'en 2017, il avait fait le tour après le match aller contre le Barça 4-0. Il avait fait le tour du Parc des Princes avec les joueurs dans l'enceinte, hein, pas à l'extérieur, parce que quand même. Moi, j'ai une autre qualification qui nous avait fait pas mal parler du Paris Saint-Germain. Alors, c'était les huitièmes de finale. On était en 2015. C'est contre Chelsea. Il y a eu 2-2. La tête de Thiago Silva. Voilà. Est-ce que c'est ce genre de soirée-là qu'on découvre? Est-ce qu'on peut les comparer, ces soirées-là? ou pas du tout. À l'époque, c'était mais Chelsea, à l'époque, c'était 2015. Et c'est huitième de finale pour un passage en quart.
Chelsea, elle avait été avec une histoire de prolongation, rien à voir.
Oui,
oui, il y a des prolongations.
David Luiz
et Thiago Silva. Oui,
mais... à 10.
Ouais. Ouais, et à 10, ouais, avec l'expulsion d'Ibrahimovic.
Il y avait quelque chose de plus inattendu, avec plus d'émotion, parce que ça se fait au forceps. Il est vraiment perdu à un moment donné.
Irrationnel.
Il l'arrache, plus
irrationnel. T'es éliminé en plus. T'es éliminé.
Exactement.
Qualifié à la fin.
Là, je trouve qu'on a eu, pas 90 minutes, on a eu une heure pour sentir arriver la qualification. Donc ça n'enlève rien.
Au niveau des émotions,
voilà, ça n'enlève rien à la
performance. Je préfère le 2015.
Mais disons que là c'est, tu sens l'histoire arriver. Donc bravo à eux, il n'y a pas de souci. Mais à Chelsea, c'était incroyable. D'ailleurs, on s'en souvient un peu.
Ça a déjà été fait. Mais non, tu m'aurais dit au niveau des émotions, est-ce que c'est un match qui vous a transporté dans des émotions qu'on n'avait jamais eues ce soir? Je t'aurais dit non, parce qu'avec ce PSG, même ce PSG-là, sans parler de l'époque Ginola, Comboire et tout, j'en ai même eu des plus grandes encore. Mais du PSG-QSI, c'est fait que la 2015, elle m'a plus transporté que ce soir.
Ouais. Autre réaction après celle de Nasser Al-Khelaifi, c'est Ousmane Dembélé, buteur ce soir, comme au match aller et au match retour. Et
il fait des éloges à son coach. Tout le monde y a cru, on savait qu'on allait marquer des buts à Barcelone. On a beaucoup travaillé tactiquement cette semaine avec le coach et sa tactique a été parfaite.
Giovanni, à chaque fois qu'il y a une grande victoire comme ça, avec un choix, on va dire, judicieux du coach, Camille et on va dire ses joueurs dans les... On parle de match référence, je ne sais pas si c'est un cliché ou pas. Ce soir, vous avez cité un match référence, Giovanni. Oh, Xavi arrive ou Lucien qui arrive.
Non, ça s'active. Je pense que c'est les journalistes catalans qui commencent à descendre. Pour l'instant, il n'y a pas de coach. Bah oui, parce que pour le coup, j'avais assisté au naufrage à Saint James Park, au naufrage à San Siro. Hormis ce qui s'était passé à San Sebastian, le Paris Saint-Germain était très friable à l'extérieur en Ligue des Champions. J'avais pas vu le PSG maîtriser pendant 90 minutes un adversaire. Là, je parle Ligue 1, Coupe de France ou même Ligue des Champions. Et ce soir, au moment où on les attendait le plus, que ça soit de la rationalité des choix de Luis Enrique et le comportement des joueurs sur le plan humain, tactique et technique, tout a été quasiment parfait ou presque. Donc moi je trouve que ça aussi c'est assez impressionnant, parce que j'étais plutôt pessimiste. Je trouvais que cette équipe, sur certains aspects, elle progressait, et sur d'autres elle était même en phase de régression. Et d'avoir une partition à l'unisson comme ça, dans un contexte aussi défavorable par rapport au passif du PSG, ça va aussi compter pour la fin de saison du Paris Saint-Germain. Ça va aussi énormément compter pour l'aventure de Luis Enrique au PSG. Le rapport de confiance sera totalement différent après cette soirée. Donc il y a énormément de choses positives à ressortir ce soir, et ils ont un vrai vrai grand match à l'extérieur, et ça, on se posait beaucoup de questions par rapport à ça, même sur la notion d'extérieur en Ligue des Champions.
Le match référence, je sais pas, mon expression était un peu moisie, mais j'aime bien votre réponse, parce que pour Giovanni, il y a peut-être un avant et un après. Est-ce que vous êtes
forcément,
est-ce qu'il y a des choses là ce soir qui sont acquis, on voit l'acquisition, est-ce qu'il y a quelque chose ou quelque chose qui s'est débloqué?
Là, je pense que cette fois, définitivement, Luis Enrique a trouvé les 11 joueurs à cette place-là qui iront jusqu'au bout pour les matchs qui comptent, c'est à savoir les deux demi-finales.
Espérons.
La demi-finale aller-retour et.
Attention avec lui, on sait jamais.
Jérôme n'est pas sûr, mais bon.
Ça, je pense. Et je pense aussi qu'au-delà même de l'aspect tactique, etc., qu'on peut développer à l'infini, mais sur aussi se prouver qu'on est capable de. Ils n'ont jamais douté, je crois, entre l'aller et le retour, mais en tout cas c'est les informations que j'avais eues dès le lendemain du match aller.
C'est ce qu'écrit Damien Degore dans l'équipe du jour, ils étaient presque plus confiants qu'avant le coup d'envoi. C'est leur état d'esprit juste après leur défaite 3 buts à 2 il y a un peu moins d'une semaine.
Ouais, et j'avais fait un papier là-dessus dans l'équipe de choc le lendemain, et il y avait vraiment de la sérénité qui se dégageait malgré, en dépit de la défaite. Et donc en avoir conscience, se le dire, le faire dans un stade, enfin contre un adversaire prestigieux, etc. Donc je trouve que mentalement ils se sont sans doute prouvé des choses. Donc c'est une soirée qui est fondatrice pour moi, en tout cas qui est riche d'enseignements tactiquement et émotionnellement. En tout cas, c'est mon regard.
Ouais, c'est le regard de Bertrand. J'ai des regards en coin, Ludovic, Jérôme. Non, mais il y a des choses qui sont débloquées.
Bah, t'as pris des grosses claques quand même. T'as pris des grosses claques sur des performances tactiques du coach aberrantes. Je pense à Newcastle, évidemment. Par exemple, c'est la plus marquante pour nous tous. Tout. Donc effectivement, le chemin accompli, c'est pas grand-chose 4 mois, mais dans le foot, c'est beaucoup.
Et les grosses claques, c'est quoi? C'est pour les joueurs ou c'est pour Luis Enrique alors? Non, parce que ce soir, si on regarde la compo, elle est, on va dire.
Elle est classique, finalement.
Elle est, oui.
La surprise, c'est la. C'est, on l'a dit à la mi-temps, il a fait simple. Enfin, il a fait simple. Il a mis les meilleurs joueurs à leur meilleur poste.
Oui, mais après, il y a tout ce comment il a travaillé aussi la préparation tactique de son match. C'est pas juste faire un 11 d'être entraîneur.
Oui, bien sûr.
Et au final, quand on fait le bilan de Luis Enrique, alors il a toujours cette tendance à vouloir être au centre du jeu. Luis Enrique, c'est sa personnalité. Il faut qu'on parle de lui. Et pour parler de lui, il fait des fois des expériences tactiques, comme il l'a fait à St James Park, qui était un four. Mais au final, il arrive dans un club.
Mais Lisande, c'est par ego qu'on parle de lui.
Il aime bien être au centre du jeu. Et aussi, je pense, parce qu'il essaye des choses vraiment par conviction aussi, parce qu'il a envie que ça marche. Mais il arrive dans un club dont on sait combien c'est compliqué d'être entraîneur au Paris Saint-Germain. On l'a dit pendant des saisons et des saisons. Et il va être champion à sa première saison. Et il est en demi-finale de Ligue des Champions, en ayant fait des expériences plus ou moins réussies, effectivement, mais il s'est qualifié en huitième de finale, et c'est tout ce qu'on lui demandait. Il se qualifie en quart, et là maintenant il se qualifie en demi. Bah, et je pense aussi de ce que vous disiez sur leur prestance mentale. Il y a un vrai changement et je pense que là-dessus, il est très bon. Parce qu'il est très bon pour entrer dans la tête de ses joueurs. Il arrive quand même à les gonfler à bloc. Il a, lui, une confiance en lui énorme et qu'il arrive à diffuser un petit peu. On a assez dit, je me souviens quand il jouait le Real, qu'on constatait que les joueurs du Real étaient comme habités, qu'on sentait au début des matchs que les joueurs du Real, ils savaient qu'ils allaient se qualifier, la fameuse faute de Benzema sur Donnarumma. Et les Parisiens étaient beaucoup plus fébriles. Et là, ça s'est un petit peu inversé. Ce soir, et dès le début du match, moi, je les ai trouvés confiants, comme s'il y avait un côté inéluctable à leur qualification. Comme si, de toute façon, ils allaient finir par se retrouver. Et dans l'attitude, alors, au-delà de Marquinhos, qui incarne quand même le PSG de QSI pour nous, dans le match énorme qu'il fait ce soir.
Et un peu de la loose.
Soir, il a été quand même pas loin magnifique. De la perfection.
Ouais,
et dans cette attitude, cette énergie, cette détermination, ces regards, leur attitude, la manière dont ils se sont parlé, dont ils se sont comportés, tu sentais une équipe habité par quelque chose, et ça, on peut aussi dire que Luis Enrique a apporté quelque chose.
Il patiente, Ludovic Aubagnac.
Pour moi, non, mais elle est très intéressante, ton développement, il sent.
Et, un peu long, peut-être.
Non, mais très intéressant.
Si, il montrait sa montre quand on parlait. Non, je déconne.
Non. Je trouve qu'en fait, il ne fait que rééquilibrer en fait, la balance sur cette double confrontation. Pour moi, la première confrontation, il veut prouver à Xavi qu'il est l'essence du Barça, il veut lui donner une leçon. Là, il a joué ce soir pour gagner le match. Pour moi, il n'a pas joué pour le gagner. Il a joué le premier match pour être meilleur que Xavi, pour montrer que c'était un meilleur entraîneur que Xavi, pour montrer que le Barça, c'était lui, dans son ego. Je trouve que sur ce match-là, il met son ego un peu de côté, il met son équipe en avant.
Après,
avec un match très préparé.
Vous êtes sûr,
Ludovic?
Vous êtes sûr, Ludovic?
Ah ouais, j'en suis sûr.
Il n'y a que lui qui le sait.
Qu'est-ce qui explique que tu mets Lee et Asensio dans le même match, sur un match contre le Barça à l'aller, alors que ces deux joueurs-là...
C'est ça qui va te faire mieux jouer que le style du Barça? Je pense pas qu'ils fassent ça pour faire
des joueurs. Tu mets des joueurs ça pour gagner le match.
Attendez, il y a un doute. Il y a un doute sur votre raisonnement.
Le ballon dans ton jeu de possession. Si tu mets plus de joueurs techniques, c'est que tu estimes avoir plus le ballon, c'est que tu estimes de mettre en difficulté l'adversaire, c'est que tu estimes beaucoup de choses.
Mais là, ils gagnent pas sur le jeu de transition ce soir. Si?
Moi, je trouve qu'ils gagnent sur le jeu de transition.
Ils gagnent pas sur le jeu de transition. Ils jouent sur le jeu d'approcher de plus en plus de la surface. Non, avec le surnombre.
C'est le
mais sans aller directement vers le but, quoi.
Ce soir, le carton rouge, tu l'obtiens quand le Barça sort.
Non, mais Ludo.
Et après, avec un plus, évidemment, tu mets ton football
en place. Excusez-moi.
Ce joueur-là qui était au match aller à Mbappé, il aurait pu faire la même action. Tu vois, tu les avais quand même à l'aller, ces joueurs-là. Non, mais moi, je pense pas qu'il...
Tu aurais mis cette compo-là, toi?
Mais j'en sais rien. Moi, comme il le dit régulièrement aux conférences, il les voit tous les jours, il les côtoie. Donc, après, je pense pas qu'il fasse...
Tous les trois jours, Joe, tu vois.
Ouais, d'accord, mais je pense pas qu'il fasse cette compo. De dire, il fait cette compo pour battre Xavi. Ouais. Non, moi, je pense qu'il fait cette compo parce qu'il se dit, peut-être qu'il se trompe. Mais après, on se rappelle que les deux premiers quarts d'heure sont plutôt pas mal.
Oui, mais je pense même aussi qu'il y a un peu de vrai, on le sait. Et on l'a aussi au match aller.
Dans la
sur un match aussi important comme ça.
Le Barça, c'est moi.
Enfin, non, mais même au-delà de ça, qu'ils disent, aux yeux du monde entier, ce qu'il a fait, c'est...
Mais ça a plus été lui ce soir le Barça qu'à l'aller.
Mais ce soir, là où je rejoins Mehdi...
Là, il a 65% de possession, combien?
Je vais faire très 61, vite, Mehdi.
Mais le match tourne...
L'ego du match aller, c'est son ego. Bah oui, moi, j'en suis persuadé.
Oui, mais
juste après.
Vous êtes assez sûr de vous.
Oui, c'est ça.
Vous êtes c'est une impression.
C'est une impression.
Je sais pas.
C'est une opinion.
Tu sais très bien qu'il aime bien tenter des coups pour qu'on parle de lui quand même. C'est pas grave. Et puis, tant mieux, ça me va. Tant mieux, c'est pas grave. M'en fous. Et ce soir, c'est le compo humble. Humble dans le sens où je mets mes meilleurs joueurs au meilleur poste. En revanche, le joueur mis à 100%, c'est que ce soir, c'est pas la transition. Ce soir, c'est l'agression. Ils ont agressé le Barça, mais agressé mentalement, agressé physiquement, évidemment tout ça dans le sens noble du terme au niveau du football. Ils ont agressé le Barça, ils savaient plus où ils étaient. Et ça, effectivement, pendant 6 jours, je veux bien croire que c'est beaucoup son travail. Ça, c'est
sûr. Et donc avant, il n'a pas fait avant.
Pas toujours.
Non, juste sur le 6 jours.
Non. Il l'a pas fait. Il l'a pas réussi, peut-être. Il l'a pas réussi.
Il estimait peut-être.
Est-ce que tu es agressif? On va essayer de coincer.
Je sais pas si c'est le terme agressif, mais je les ai trouvés pressés tous ensemble.
C'est agressif, c'est un beau terme.
Très haut, en fait.
On va essayer de coincer Jo. Jo, parfois, avec Guardiola, sur certains matchs par le passé, et sur certains grands matchs, Guardiola nous a sorti un truc de derrière les fagots qui était un peu surprenant contre Lyon, de jouer je sais plus comment, mais sans De Bruyne. Mais il y avait ce truc là, il y avait ce truc là de Guardiola, et ces dernières saisons Guardiola, on va dire, a eu un choc de simplification. Est-ce que ce soir, voilà, c'est peut-être la leçon à retenir pour Luis Enrique, ou en tout cas une piste, une direction?
Choc de simplification de Guardiola, je sais pas, de temps en temps, ils tentent des trucs aussi, je sais pas.
C'est ça. Non, mais moi, disons, je trouve...
Mais c'est pas après, moi, je trouve que c'est des coachs qui essaient des trucs. Alors, peut-être sur des... Alors, leur erreur, c'est peut-être sur des gros matchs, etc. Mais ils tentent toujours quelque chose pour perturber l'adversaire. Alors, des fois, ça marche.
Mais parfois, ça perturbe aussi son équipe. Hein.
Mais c'est aussi peut-être le cheminement d'un entraîneur qui arrive à maturité.
Ce que veut Enrique, c'est qu'il y a avoir des joueurs intelligents qui peuvent essayer de s'adapter à beaucoup de situations.
Si je te
suis... Après, ce qui est assez marrant, c'est que quand le coach fait toujours sa même compo, tout ça, on se dit,
et pour
jamais
ça,
il change.
Ça
et le mec, il, a, il change tant mais des trucs.
On n'est jamais, jamais content.
Mais je pense que vous avez raison sur le fait qu'il aime bien qu'on parle de lui. Mais est-ce que le mec va faire sur un match aller, avec la pression qu'il a sur les épaules, des choix pour lui, au lieu de se dire, je fais les meilleurs choix pour faire gagner l'équipe. Après, il se trompe. Mais je sais pas, moi je pense pas qu'il fasse ça juste pour lui.
Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Je trouve surtout que c'est un peu un procès d'intention, parce que c'est très difficile à prouver. C'est-à-dire que il fasse son mea culpa, mais moi je pense que comment il peut se dire, sachant que
même s'il n'est pas menacé,
leur saison se joue sur ces matchs-là. Je vois pas le mec se lever un matin et dire, bon, comment je vais faire parler de moi, et j'invente une dame.
Non mais
les mecs, ils ont le droit de se planter. Moi, je pense qu'il s'est vraiment
Bertrand, la formule peut-être.
Pour Guardiola,
ouais, Bertrand, même à l'aller, le premier quart d'heure.
Bertrand et Johan, la formule est peut-être mal choisie.
La compo de départ, qu'est-ce qui t'amène
à attendez, les gars.
Le premier quart d'heure, il n'est pas plutôt réussi du PSG?
Ouais, mais
tout le monde s'est dit qu'ils se sont trompés. Mais le premier quart d'heure, il n'est pas réussi.
Ils tentent de presser, ils sont fous.
Ils se font piquer
deux fois dans le dos dans le premier quart d'heure. Oui. Ils se font piquer deux fois sur des dégagements de Ter Stegen, où ils ont failli aller au but de Naruma sort,
Mais Ludo,
il n'est pas si ouf que ça.
Mais jouer haut aussi, c'est pas grave. C'est pas parce que c'est jouer haut aussi.
Moi, je te conteste pas, je ne vous conteste pas le fait qu'il se soit trompé à l'aller. Moi, je pense qu'il s'est trompé à l'aller. Et lourdement, je l'ai dit, on était là la semaine passée. Je dis ça.
Non. Est-ce que c'est pas une explication? Est-ce que c'est par orgueil? Oui, non, mais est-ce que c'est par orgueil?
Moi, je vous dis que non, et je vous dis que vous, vous me dites oui, et vous pouvez pas le prouver.
Personne ne le saura.
Vous pouvez
pas le prouver.
Non, mais sauf que moi, vous l'attaquez. Moi, je l'attaque pas du tout. Non, mais si. Non, mais c'est pas grave. Assume simplement le fait. Tu dis, je suis sûr qu'il a voulu prouver à Xavi qu'il était plus fort que lui. C'est un compliment.
J'ai une intuition de se dire que cet homme s'aime bien,
oui, c'est une opinion.
et qu'il est de l'école du Barça, et que ça fait un moment et Xavi est là, et qu'il a envie inconsciemment de donner une leçon à Xavi.
Et on peut aussi, malheureusement, il ne le dira jamais, parce que lui ne veut pas parler de jeu avec les journalistes. Mais peut-être qu'il a des raisons tactiques spécifiques
qu'il ne nous a pas
expliquées. Et ça, je le regrette.
Pourquoi il a fait un truc pour essayer de trouver la faille de l'adversaire. Après le match,
alerte générale.
Après, il va t'expliquer quelle est la faille de l'adversaire.
Alerte générale, c'est Xavi. On parlait de Luis Enrique. Xavi qui revient sur cette rencontre à l'un des diffuseurs, soit RMC, soit Canal. Qu'est-ce qu'il a dit?
Xavi qui est très en colère. très en colère. Nous sommes contrariés parce que je pense que c'est l'arbitre qui fait le match. C'est excessif de donner un carton rouge sur cette action. J'ai dit à l'arbitre qu'il était très mauvais.
Comment
ça c'est honteux. Il était très mauvais lui aussi sur le déjà.
Non, c'est pas sérieux ça. Le problème c'est que tu peux pas dire. Je trouve qu'on n'y arrivera jamais avec dans le foot avec des entraîneurs qui on a les mêmes polémiques d'arbitrage en Ligue 1 en ce moment qui expliquent toutes leurs défaites par l'arbitrage. Il y a un moment donné, le Barça ce soir c'est Nîmes 0,
parfois ça peut arriver.
Par plus fort que. Non mais faut juste s'incliner. Là Araujo, il est pris de vitesse, il fait un mauvais choix, il devient rouge. Après, t'existes pas du tout. C'est-à-dire que même à 10, t'as le droit de résister. Ils sont largement devant. Ils ont pas existé. Donc Xavi, il est gentil, mais ils savent que ce qu'il dit est faux. Donc
mais qu'est-ce qui lui fait dire énervé, surtout mais... Qu'est-ce qui lui fait dire que ça méritait pas le rouge
mais est-ce qu'il parle de son rouge à lui ou du rouge que prend
Je pense que c'est le rouge d'Araujo, puisque le fait qu'il
annihilation d'une action but manifeste. On était dans
ça. Franchement, tu peux même te poser la question s'il y a pas penalty, parce que l'action, elle s'amorce. Plus ou moins sur la ligne.
Non. L'amorçage en dehors de la surface.
L'amorçage, c'est l'amorçage. Hein, qui
l'amorçage, parce que j'ai vu image. Je l'ai vu image par image. Il est donc au début, le premier contact, c'est en dehors de la surface. Et on va dire la grosse poussée, comme une fusée Ariane, hein, d'accord. La grosse poussée, c'est à l'intérieur. Bon.
Je l'ai vu
image par image. Le début du contact est en dehors de la surface.
Non, mais il y a une poussée après.
La règle que tu dis, c'est quand il y a un accrochage.
Ce qui fait tomber, c'est en dehors.
Tu siffles ou l'accrochage se termine. Quand il y a un accrochage, c'est vraiment comme ça. Si c'est un contact,
ils finissent dedans.
Mais je veux juste comprendre. C'est le rouge. Avec toutes les polémiques qu'on a en ce moment, c'est quand même le rouge le plus évident qu'on ait vu depuis trois mois.
Depuis un bout de temps, ouais.
Et que lui, qu'il a pas eu, mais.
Mais il a pas eu, du coup. Et que ce coach-là ne puisse pas un peu te parler de foot en disant voilà pourquoi on a failli à ce point-là, et je m'excuse, de la première à la 96e minute, et que lui, son seul argument, ce qui nous oppose, c'est simplement c'est le carton rouge d'Araujo.
Ouais, mais lui, il va aller dans la polémique.
Sauf que le rouge est évident.
Ouais, on parle pas de lui.
Oui, mais comme ça, c'est un classique.
Moi, je trouve qu'il fait beaucoup d'erreurs dans ce match. Il y a mal de sortir.
Alors, Araujo, donc, est exclu. Et vous m'avez dit pourquoi il sort Yamal en disant mais pourquoi alors maintenant
je trouve que sur le moment qui n'était pas terrible du Barça, c'est un petit peu le seul qui te met en panique. Tu sens que quand il touche le ballon, les joueurs du PSG sont pas à l'aise quoi.
Et on l'a vu sur le but.
Voilà, et notamment ouais, mais pas que sur le but, je trouvais qu'à chaque fois qu'il prenait le ballon, hop, de suite il y avait une concentration de Parisiens qui arrivait très très vite. Bon, et après c'est son choix parce que tu étais obligé d'en sortir un devant, j'imagine, il allait pas rester comme ça. Mais je suis surpris de voir sortir. Mais non, c'est une vraie question.
Rafinha, Lewandowski, qui t'a marqué 3 buts en 100 minutes.
Bien sûr. Mais
moi, je suis assez d'accord avec toi. Il y a mal. Je trouve que si t'as des contrats joués, c'est un joueur rapide. Il le prouve sur son but. Mais ça veut dire qu'après, tu sors soit Lewandowski, soit Rafinha.
Tu fais un choix. Mais moi, je trouve que celui-là, c'était pour moi pas le bon sur le moment. Après, même à un moment donné, quand ils prennent l'eau de tous les côtés, et puis tu vois bien qu'ils disent bon, on va essayer d'éviter de prendre des buts.
Ils savent pas faire.
Fais des changements au milieu. Fais-moi rentrer des mecs qui vont au charbon.
Et même
là, tu laisses Gundogan, De Jong et Pedri pendant très longtemps. Et les mecs, ils touchent pas un ballon.
Christensen et Sergi Roberto.
Tu mets le petit Ferry, comment il s'appelle,
Firmin.
Firmin, il envoie un peu plus de bois. Je sais pas, tu fais quelque chose. Là, tu subis. Jusqu'à ce que ça craque.
Chronologiquement, 29e minute, donc, carton rouge pour Araujo. Et à la 34e minute, c'est le coaching. C'est 5 minutes plus tard. Est-ce que finalement, il y a peut-être un effet de panique? Le Barça mène donc 1-0, à 2 buts d'avance et tout ça. Est-ce que Xavi a peut-être à surcoacher?
Il est obligé de se réorganiser.
Il est obligé de se réorganiser.
Tous les entraîneurs le font, il le fait aussi.
Oui, non.
Tu perds un défenseur, tu dois te réorganiser. Après, ce qu'on a vu ce soir, c'est que c'est une équipe qui est incapable de subir. Ils ont été mauvais, ils sont pas capables de subir. Et tu peux pas te qualifier dans ce genre de match de Ligue des Champions à ce niveau-là si t'es pas capable à un moment donné de subir dans tes temps faibles. Et en fait, tout le match, dès qu'ils ont subi, et c'est pour ça que Luis Enrique a été bon de les agresser dans le bon sens du terme, pour une fois qu'ils sont tous ensemble dans le pressing, qu'il y a un vrai collectif. Là aussi, on disait les saisons dernières qu'il y en avait trop de stars qui participaient pas à l'effort. Là, ils étaient tous dans les efforts, donc c'est beaucoup plus difficile, surtout à 11 contre 10, enfin à 10 contre 11. Mm-hmm. Mais ils savent pas subir. Ils gagnent pas les duels, ils savent pas sortir les ballons, ils paniquent à chaque fois.
Tu vois, tu fais rentrer le défenseur, là, comment il s'appelle, parce que ça fait un siècle qu'il n'est pas joué. Tu fais rentrer ce joueur-là. Tu peux rester avec, parce que donc tu t'enlèves une arme offensive. Mm-hmm. Est-ce que tu pourrais pas laisser, parce que De Jong a dépanné
dans l'axe,
derrière. Donc est-ce que tu peux pas, parce qu'il est passé en 4-4-1, et tes deux sur les côtés, ils travaillent. Soit Yamal et Rafinha, ils font le boulot. Mais au moins, quand tu as le ballon, t'as pas que des ballons longs sur Lewandowski en espérant qu'il va faire un contrôle pour que les autres reviennent. Donc tu perds peut-être un mec au milieu dans l'axe, mais au moins tu restes en 4-4-1 avec deux options sur les côtés qui te permettent quand même offensivement de pouvoir éventuellement faire mal au PSG.
Donc vous êtes en train de me dire peut-être que... il n'aurait peut-être pas dû le sortir. Tous les entraîneurs font ça, mais finalement,
après, c'est le choix. Il a refait monter De Jong.
Il a vu le match aller bien mal qui a été décevant. C'est un joueur très jeune. Tu peux te dire que Lewandowski va peut-être sur un coup. Et Rafinha qui est en grande réussite.
Ouais, mais tu peux
PSG.
Laisser les trois.
Non, mais c'est non, pas mais ce qu'il dit. Oui, voilà, c'est ça.
Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, De Jong, tu le laisses derrière.
Tu remets derrière. Tu remets Gundogan à la place de De Jong pour envoyer des longs ballons sur les.
Ouais, tu laisses Gundogan, Pedri dans l'axe et tu mets les deux sur le côté.
Moi, l'idée, c'est qu'il fasse du coaching, mais il peut pas attendre un peu, non? C'est pas possible, là, c'est 5 minutes.
Oui,
hein.
Tu peux laisser un petit peu comme ça. Quoi.
C'est long, voyons. Déjà.
Non, mais disons que.
Non, je sais.
Non, mais t'as l'option. T'as l'option avec De Jong.
Les longs ballons sur Lewandowski, c'est ce qu'il a fait à Paris et ça a marché. Ils ont gagné à Paris.
Ouais, mais c'était pas des longs ballons. C'était plus des ballons dans les pieds où Lewandowski a décroché vachement.
Il était pas suivi.
Là, c'était vraiment des ballons.
C'était un peu déstructuré. Que Paris a pas fait le même match.
C'était des longs ballons parce que Ter Stegen et Gundogan, qu'on n'a pas vu ce soir ou peu vu ce soir, servait vraiment de manière verticale comme disait
Exactement.
Mais maintenant non, mais fréquenté je viens
peut-être prolonger l'aventure avec De Jong en se disant laissez
attends
peut-être
un peu,
plus
que 5
minutes
après
ça,
c'est intervient aussi un moment place, du match quoi. Déjà où le Barça est pas terrible et où il se dit sauf sur ce que j'ai déjà vu j'ai pas l'impression qu'on soit hyper gaillard et je veux m'assurer que
parce qu'il est qualifié mais qu'est-ce que tu fais tu renforces pas forcément en faisant ça parce que tu te mets Pedri à droite regarde tu mets Pedri à droite donc tu le perds un peu dans l'axe
déjà moi t'as un central déjà
Ouais, mais central qui a pas joué depuis combien de temps ?
Je te dis pas que c'est pas qui est rentré, mais la preuve. Hein, mais...
Non, mais je trouve que c'est pas un grand choix en fait. Voilà.
Ah non,
après, ça me donne raison aussi, parce que c'est facile de le dire après. Mais même quand il rentre, je suis surpris de voir ça. Et puis même Pedri à droite, moi je l'aime moins. Quand tu t'as pas la vitesse, tu vois, pour repartir en contre. Mais ça fait beaucoup de choses.
Mais Xavi rate le match ce soir. Mais si on a parlé de Luis Enrique toute la semaine d'avant, pour moi. Il n'a pas préparé non plus toute la semaine d'avant comme il fallait, parce que le début du match, tu dois opposer autre chose à ça, pareil quand même. Tu vois ? Et c'est vrai que ce n'est pas l'ADN de ce Barça-là. Mais comment... J'adorerais savoir, dans les deux vestiaires, la préparation psychologique des joueurs à Barcelone et à Paris.
Luis Enrique...
Parce qu'à mon avis, il a été mauvais en amont aussi, Xavi, sur ce match-là. J'ai pas aimé son match aussi,
ce qu'il a
mais en amont, je pense qu'il a pas été bon.
Ce qu'il a bien fait
à
l'aller, c'est-à-dire sauter le pressing parisien.
Ouais.
Sur le terrain, ça. Ben pareil, peut-être aussi que par égo du match aller, il décide de jouer, de ressortir les ballons malgré la pression. Mais ces entraîneurs-là, ils ont un égo fort, il faut le dire.
Est-ce que ça n'y bat plus sur toi que sur eux? Est-ce que ça n'y bat plus sur toi que sur eux?
Petite semaine là. Je vous retrouve ce duo, la Tour au Bragnac. Luis Enrique, donc, Paris n'avait pas joué ce week-end, avait relâche pour protéger les intérêts européens de Paris, de l'OM et de Lille d'ailleurs.
Quelle ligue?
Bravo.
Avant Lille et Marseille, on fera tous. Et là, on fera
Luis Enrique, nous avons eu le temps nécessaire pour analyser, pour essayer d'améliorer notre performance. Donc, vous avez vu quelque chose de différent sur l'implication. Mais c'est surtout là, moi je vous écoute. C'est surtout dans la tête. L'idée d'aller disputer, d'aller challenger, d'aller contester, d'aller agresser.
Je pense qu'il y avait deux choses. Revenir à une compo où les joueurs étaient à l'aise dans leur schéma préférentiel et puis effectivement préparer...
Garder son calme quoi qu'il arrive.
Préparer quelque chose de l'ordre un petit peu du seul contre tout. C'est le seul au monde. On l'a tous vécu une fois où tu as le coach qui te prépare en disant voilà, tout le monde pense qu'on est des bidons, tout le monde pense qu'on est mauvais, vous allez voir. Et monter un petit peu le groupe, mettre sous pression pendant... tous les jours d'avant, et je pense que ça, effectivement, mais il a dit, je pense que Luis Enrique est très très fort pour ce genre de combat-là. Il a prouvé lors de la remontada contre le PSG, alors qu'ils avaient joué, pour le coup, ils avaient joué 4 jours avant, cette année-là. Mais
donc la tactique, c'est toujours de perdre le match aller.
Non, mais en revanche, lui, il sait faire.
Ah, mais ils étaient conditionnés ce soir. C'est-à-dire que
tu vois bien
que dans le comportement.
Tout de suite.
Même dans les points de contact, dans les trucs, jamais une discussion avec l'arbitre, se replacer tout de suite. Hein. Ils étaient hyper concentrés.
Regardez qui arrive. Ah. Luis Enrique qui arrive. On va découvrir les premiers moments de sa conférence de presse. Oui. On y va.
Bonsoir, coach. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre sentiment, tout simplement, après cette qualification ?
Eh bien, tout d'abord, Perdón, soy nuevo en esto. En primer lugar...
tout d'abord...
Qué difícil ha sido jugar contra el Barça.
Ça a été difficile d'affronter Barça sur le plan sentimental, émotionnel. Pour moi, ça a été très difficile. J'ai essayé de contrôler mes émotions au maximum. J'ai fait ce que je sentais, ce que je devais faire dans les deux matchs, mais sur le plan émotionnel, j'espère ne pas avoir à rejouer contre Barça finalement. Comment je me sens? Hyper content. Je crois que l'équipe a été dans le match. Nous avons commencé vraiment, nous avons été brillants au début. Les premières minutes merveilleuses, la première action avec le Barça sur notre surface de réparation, une échappée de Yamin Lamal termine en but. On ne méritait pas de perdre, mais on perdait. On n'a pas mérité d'encaisser un but dans les premières minutes et on a encaissé un but. Mais de là, l'équipe a continué de grandir. On a été merveilleux sur la pression. On a pu avoir un homme de plus sur la ligne défensive. Les attaquants ont fait un match vraiment formidable. Kylian Brandi, tous ont été à très haut niveau. C'est clair que l'expulsion a été importante, a été clé. Mais bien qu'on a joué contre une équipe qui n'avait que 10 joueurs, il faut savoir jouer ce type de match pour ne pas commettre d'erreurs. Je crois que le résultat est juste.
Luis Enrique pour sa première analyse, sa première réponse. Tiens, il y avait la qualification de Paris, est-elle historique? Il y a eu un super duel. Oui ou non? Qui l'emporte? Est-ce qu'on peut afficher les résultats juste avant de lancer la publicité? C'est un oui qui s'impose, 59 à 41. C'est pas la ligne droite de Longchamp, mais c'est une nette victoire du tandem Alonso Aubragnac. Dans quelques minutes, on reviendra, on parlera du MVP du soir. Qui est pour vous le MVP? Je compte sur vous. Vous allez sur le site de l'équipe pour le désigner. Allez, à tout de suite. Vous regardez l'équipe du soir, vous avez bien raison, ce soir, Paris accède aux demi-finales, au dernier carré de la Ligue des Champions. Paris a été renversant, 4 buts à 1, alors que Paris avait perdu 3 à 2 le match aller. C'est Paris qui file dans le dernier carré, qui rencontrera Dortmund. Virginie, on va maintenant élire l'homme du match, le MVP. Est-ce que vous avez un indice? Vous avez scruté la conf de Luis Enrique, ou notamment les petites interviews qu'il donne aux diffuseurs. Il a une faiblesse pour qui?
Alors, on a voulu lui parler d'abord de Kylian Mbappé. Voilà ce qu'il a répondu. Ah. Ça a été un leader du début à la fin. Mais je veux surtout parler de Vitinha. Ah. Il a lutté, il a été super, tout comme Ousmane Dembélé, pour qui ça a été une soirée compliquée avec les supporters du Barça.
Quel est le MVP du match ce soir? Pour Luis Enrique, il y en a deux. Il y a du Dembélé et du Vitinha, mais vous pouvez nous donner d'autres joueurs. Habillage, s'il vous plaît. Simply the best. Merci beaucoup. Mélisande.
Moi, je reste sur Barcola.
Barcola? Ah, c'est marrant. Je pensais que vous alliez dire autre chose, mais j'irai vous voir. Ludovic Aubragnac.
Vitinha.
Monsieur Latour.
Ousmane.
Ousmane? Monsieur Alonso?
Barcola.
Barcola, les deux. Jo?
Moi, je trouve que Vitinha fait un énorme match, mais je mettrai sur Barcola.
Ah, la petite faiblesse pour Barcola?
Il fait pour les matchs, quoi.
Mmh. Ouais, exactement.
C'est lui. Voilà. Là, c'est lui qui fait expulser Araujo, qui est quand même
qui fait la passe D, après.
Le tournant même pas le tournant, mais ce qui rend quand même les choses plus faciles, parce que je trouve quand même que même à 11, les Parisiens étaient meilleurs que Barcelone. Et puis après, il amène le premier but et il est vraiment beau, son centre. Je l'ai trouvé très juste, moi. Je trouve qu'à chaque fois, il a fait les bons choix. Et il les a bien réalisés, techniquement. Et que je l'ai trouvé d'une fraîcheur et à la fois mentalement une belle maturité. Donc bravo à Barcola. Même si Marquinhos a été excellent, il a rendu beaucoup de choses possibles.
C'est là où j'allais vous brancher. Hein.
Oui. Non, mais moi j'aime bien les défenseurs. Mais j'ai trouvé Marquinhos au diapason et je pense qu'il a diffusé une confiance et qu'et dans sa gestion de la profondeur, quand il a les qualités qu'il a de vitesse et qu'il joue haut comme ça. Il peut le faire. C'est vrai que des fois, il ne l'a pas assez fait, parce que mentalement, c'est un club peut-être qui des fois, a aspiré les joueurs vers le bas. Et bien là, non. Il a un peu chassé tous les fantômes, mais il a montré à quel point il était précieux dans ce genre de configuration, parce qu'il va tellement vite qu'il peut se permettre d'avoir de l'espace derrière lui.
Il l'a très bien
fait. Et quand il est en confiance comme ça et qu'il fait toujours les bonnes interventions.
Non, mais il l'a très bien fait dès le départ.
Ouais.
Mais après, ça s'est rendu un petit peu plus facile quand tu as moins d'options offensives du côté de Barça.
Oui.
Tu vois, tu avais vraiment, pour moi, c'est devenu la seule option, c'est de chercher Marquinhos. Et ils l'ont très bien fait en alternant avec Hernandez sur la gestion de Lewandowski.
Rafinha a fait peser parfois quelques situations aussi.
Mais au-delà sur la frappe croisée à la fin.
Au-delà du foot, Marquinhos est le symbole de beaucoup de choses. C'est un symbole dans la manière dont tu as évolué le PSG, mais aussi dans tous les échecs. Marquinhos, c'est un symbole, c'est un double symbole en fait. Et ce soir, je trouve que pour lui, le contexte est particulier. Et répondre présent. Johan disait en plaisantant tout à l'heure, l'attitude qu'il a quand il contre après l'arrêt de Donnarumma.
Allez-y, refaites le geste.
Cette attitude-là.
Ouais, comment ?
Mais elle n'était pas feinte, elle n'était pas jouée. Tu sens qu'il était habité dans ce match-là.
Un peu comme du Rudiger, tu vois.
Pour le coup, dans ce match-là, j'ai trouvé habité de quelque chose ça fait très longtemps que je ne l'avais pas vu habité comme ça positivement.
Mais moi, je pense que pour prendre ce que tu dis, c'est vrai qu'il peut lui faire du bien. Et qui peut chasser ses démons parce que.
Il en a fait des soirées, hein.
Non, mais bien sûr qu'il en a fait.
Non, il en a fait des soirées dans des matchs à élimination directe. Je me rappelle la qualification 2020 contre Dortmund, le 2-0, où Marquinhos avait obtenu la meilleure note du match. Marquinhos, c'est un sujet qui est souvent débattu.
Ouais,
il a fait des très bons matchs en disant ça y est.
Mais pour moi.
Marquinhos s'est débloqué.
Pour moi, en tant que capitaine, il a été. Plus que d'autres rattrapés par cette trouille que cette équipe
diffusait.
Alors que je pense que bien entouré, pour une fois que tu m'apprends un mot, qu'il a tout pour être un maillon fort d'une équipe. Marquinhos, dans l'absolu, si ça va mieux et qu'il n'est pas rattrapé par ce qui s'est passé, c'est un joueur qui est rapide, qui a un bon pied, qui est bon de la tête, qui est capable de marquer des buts. Enfin, il a tout, Marquinhos, pour être au top, enfin, je trouve.
C'est assez rare. On n'est pas nommé un mec dans les MVP et on parle que de lui. Ça fait 5 minutes,
on parle
que de lui.
On avait Barcola dans le coaching de Luis Enrique. La première fois il fait un coaching, c'est un double coaching. Ruiz est sorti, Asensio le remplace et Kang In-Lee arrive à la place de Barcola à la 77e minute. Celui qui est resté tout au long du match, c'est votre chouchou, c'est Vitinha. Et je vous écoute.
C'est très beau. Il a déjà été pour moi l'homme du match à l'aller, côté parisien. Et je l'ai trouvé génialissime encore ce soir, dans un secteur appauvri au Paris Saint-Germain depuis un long moment maintenant. C'est celui vraiment qui prend toute son ampleur, tout son essor. Il est en train de déployer ses ailes. Il a la confiance. Il a été génial avec ballon, c'est-à-dire que c'est lui qui a contrôlé le tempo du match. C'est lui qui a accéléré le jeu quand il a fallu accélérer. C'est lui qui a été piqué en plein cœur quand il a senti qu'il fallait faire les décalages sur les côtés.
Ludovic est sans le ballon parce que moi, je suis pas un technicien, j'ai toujours du mal à voir à ces postes-là.
Sans le ballon, en fait, c'est lui qui est sorti très vite sur le premier relanceur qui devait être De Jong. Donc il a mis une pression terrible sur De Jong. Donc des deux côtés, il a énormément couru. Et puis son but, il change tout. Son but, il tombe, c'est pas le premier, de loin, comme ça, donc ça veut dire qu'il s'améliore.
Ça change beaucoup de choses sur la prestation d'un joueur, un terrain capable de marquer autant de buts, qu'à un moment donné, ça compte.
Ça a apporté un souffle au Paris Saint-Germain après ce but-là, qui est pas négligeable.
Donc, il y a eu un différent entre le match aller et le match retour, je sais pas si vous avez lu l'équipe, entre Marquinhos et Vitinha, le capitaine reprochant au milieu de ne pas être bien placé. Sur quelle situation ? Ça, je ne peux pas vous le dire, mais c'est raconté ainsi. Vitinha répondant qu'il appliquait seulement les consignes du coach. Marquinhos est apparu agacé un peu par cette réponse en disant non, il voulait peut-être savoir un peu les intentions
de Sur les deux matchs, c'est lui l'homme du Paris Saint-Germain.
Oui.
Sur ces deux matchs.
Sur les deux cumuls.
Donc on a un grand milieu, au moins.
On a un super élément au milieu.
On a un super élément. On n'a pas
créateur.
Encore un. On a
créateur.
Un créateur voilà. Et quelqu'un qui régule le tempo.
Intelligent aussi.
Ah oui, ça va avec la panoplie du créateur pour moi.
Ousmane Dembélé, joueur du match pour Giovanni Castaldi. Giovanni, je vous redonne la main puisque la conférence de presse est terminée. Giovanni, c'est à vous.
Pour moi, c'est Ousmane Dembélé parce que déjà, sur la double confrontation. Ah, il y a Xavi qui est là. Ouais, voilà. Dès que vous venez, vous attirez les coachs, pas les consultants, c'est comme ça. Je me tais.
À Xavi, on va rester un petit peu. On va voir s'il parle beaucoup d'arbitrage. C'est ce qu'il avait dit notamment à certains diffuseurs, soit Canal, soit RMC.
Bonne année à tous. Oui, bonsoir, bienvenue. Donc, la conférence de presse de Xavi Hernández. Je voudrais te poser une question aujourd'hui. Donc il y a un moment qui a marqué cet éliminatoire. Je crois que cela a été clé. Et je voudrais te poser deux questions. Donc est-ce que tu as des doutes ou bien est-ce que c'était très clair sur est-ce que c'était un carton rouge ou non? Et ensuite, comment peux-tu expliquer? Donc vous avez joué avec 10 joueurs. Est-ce que cela a marqué? Donc, quelle est la différence qu'il y a lorsqu'on a un joueur de moins?
Par dimension.
En ce qui concerne la dimension, j'essaierai de parler calmement
et
après la réflexion. Je crois que le football a un niveau similaire, donc, mais évidemment 11 contre 10, c'est très différent. Donc on favorise beaucoup plus l'équipe. Et je crois que l'expulsion était nécessaire pour moi. Donc c'était une belle éliminatoire. Nous avons décidé de bien jouer, d'offrir un bon spectacle. Mais ici, donc, le football disparaît en quelque sorte. Nous avons eu quelques options à la fin, mais évidemment, cela est pratiquement impossible. Il faut défendre, mais évidemment, contre une équipe de ce niveau, c'est très compliqué. Ronald, donc, a été arrêté, donc il avait vraiment une grande agressivité.
Mais
c'est un peu l'interprétation, c'est pour cela que j'ai demandé qu'il aille voir le VAR pour voir si Barcola s'était laissé tomber. Donc évidemment, cela, 11 contre 11, au début nous étions à l'aise sur le terrain, nous avons dominé. Et j'ai l'impression que j'aurais aimé jouer 11 contre 11. Heureusement, cela n'a pas été possible. Il faut faire quelque chose dans le football pour que ce soit très très clair qu'une équipe continue à jouer avec un joueur de moins.
Voilà, Xavi qui dit que Barcola, lui, s'est laissé tomber, qu'aurait aimé qu'Ivan Kovacs, l'arbitre roumain du match, puisse consulter les images, d'où l'objet de son courroux. Tous d'accord pour dire qu'il était donc.
Il y serait allé, il regardait une image, bon. Charles y serait revenu.
Voilà. Ok. Le MVP, on était en train de parler de Vitinha. Mais attendez, on va vous donner la parole, puisque le MVP de la rencontre pour l'UEFA.
C'est un homme qui a été sifflé, qui a été insulté. Et qui a pris sa revanche, effectivement, face au Barça. C'est Ousmane Dembélé.
Ousmane Dembélé, MVP du match, c'était le choix aussi de Bertrand Latour. Pourquoi? Par rapport au contexte, ou par rapport à son match, ou par rapport aux deux?
Par rapport au match, s'il ne faut pas du contexte, juste, j'ai vu des retours auprès de lui. Pour lui, c'était match de l'année, aller-retour. Il était ultra motivé. Depuis le tir au sort, il n'attendait que ça. Donc je pense qu'il est ce soir très, très heureux de s'être qualifié, d'avoir brillé. Pour ce qui est de son match, il a un apport statistique très important, ce qui est souvent son talon d'Achille, puisque souvent, malheureusement, son contenu n'est pas récompensé. Là, il est buteur, il provoque un pénalty, qui est aussi la conséquence d'une belle erreur de João Cancelo, si on est tout à fait honnête. Mais il provoque sans arrêt, il fait énormément de différence. Je trouvais plus le match avançait, meilleur je l'ai trouvé aussi, Dembélé, là où sur la première, je trouvais vraiment que Barcola était encore plus éclatant que lui. Donc pour l'intégralité, les dribbles et ce qui lui manque toujours, le but. Et donc pour ça, le même MVP. Mais effectivement, il y en a beaucoup à ressortir. On a fait 10 minutes sur Marquinhos et les autres vont développer le reste. Je ne suis pas en désaccord.
Non, mais je pense qu'on a fait à peu près le tour. Sur Ousmane Dembélé, là, ça fait 2 buts en 2 matchs. Il en a 3 buts à son compteur depuis le début de la saison. Et à chaque fois qu'il marque, c'est sur une touche. Faut pas que le mec réfléchisse trop.
Oh, mais tu vas réussir encore à nous. Mais c'est toi le pisse-froid. C'est-à-dire que là
Je connais mon Ousmane.
Là, il marque, tu dis, c'est parce qu'il a fait une touche.
À l'aller, c'est pas sur une touche.
Non, c'est pas sur une touche, mais voilà. Et la fameuse petite glissade qui permet donc à Ousmane.
Tu l'es cadré, quoi.
Je l'adore, Ousmane, mais je trouve que c'est un génie qui manque un peu de rigueur.
Non, mais c'est ce qui fait aussi son profil. C'est son profil aussi.
Non, mais non, moi je m'en fous de son profil.
Mais là, il se marque. S'il marquait à chaque fois, il serait double ballon d'or.
Et ben voilà, et ben voilà, et ben voilà.
Il amène à chaque fois quelque chose. Et là, ce qui est bien, c'était le PSG offensivement ces derniers matchs, c'était un peu on donne le ballon à Ousmane Dembélé.
Un peu.
Pour qu'il fasse les différences. Là, moi, avec Barcola, il y avait une menace.
Tu veux dire qu'à gauche, avant, il n'y avait pas un problème? C'est ça que tu veux dire?
Pas Barcola.
On parle de Kylian Mbappé.
Je ne vois pas où tu veux en venir.
Tu dis qu'il y avait Barcola, donc là il y avait.
Attendez. Vous allez voir les buts du Kix. Le doublé du Kix avec le résumé du match par Virginie Saint-Cyr. Ce soir, Paris s'impose 4-1 et file dans le dernier carré de la Ligue des Champions. Vous ne rêvez pas, c'est magnifique.
Et ça démarre mal d'abord avec la percée de Lamine Yamal à la 12e minute. Il élimine Nuno Mendes, centre au premier poteau. Rafinha devant Hakimi pour couper de près. Et puis le Barça se retrouve à 10 à la 29e quand Araújo est expulsé pour avoir accroché Barcola. Décision logique qui réveille les Parisiens. 40e, Vitinha pour Barcola qui centre à terre. Le ballon arrive sur Dembélé qui reprend du droit sans contrôle. 54e, l'espoir renaît sur un corner joué court par Dembélé vers Hakimi qui donne à Vitinha. Frappe puissante pour remettre les compteurs à zéro avant de passer devant à la 60e. Pénalty transformé par Mbappé. Et puis l'action de la fin complètement folle avec un double sauvetage de Ter Stegen et puis la reprise de Kylian Mbappé pour le doublé. Ça fait 4-1, Paris est qualifié.
On va écouter Luis Enrique qui a refusé éventuellement de parler ou de développer sur la performance de Kylian Mbappé, mais je crois qu'il a été à nouveau interrogé en conférence de presse. Nous avons l'élément.
On lui a posé une question. Ouais. La question est la suivante. Est-ce que Kylian Mbappé est concerné par le Paris Saint-Germain et est-ce qu'il va le rester jusqu'à la fin de saison? Écoutez sa réponse.
Ah oui.
Il faut réviser la pression de Kylian Mbappé. Il a été le leader indiscutable de notre équipe sur un aspect. Il faut revoir cette pression de Kylian, de Hous et de Blatt. Trois joueurs ont mis la pression sur cinq. On peut être 4-3 en ligne défensive. Vraiment chapeau. Ça a été une preuve qu'on est le leader, on donne l'exemple et lorsque Kylian est capable de transmettre cela, nous sommes beaucoup, beaucoup meilleurs.
Et ben voilà, Luis Enrique, Mbappé un doublé, une bonne attitude, est-ce une résurrection ce soir?
Non.
Habillage à la Mbappé s'il vous plaît, est-ce une résurrection? Vous diriez quoi? Oui ou non?
Est-ce qu'il était mort, Mbappé? Oui.
Il n'était pas terrible depuis déjà quelques matchs, ma petite Mélisande.
Ouais, résurrection, je trouve le mot un peu fort, mais je l'ai... Je dirais plutôt oui, alors.
Plutôt oui. Ben voilà, plutôt oui. Ludovic?
Non.
Non, d'accord, non, ce n'est pas une résurrection. Bertrand?
Non.
Non plus. Monsieur Alonso?
On s'amusait un peu.
Ouais.
Oui.
Ben oui, voilà. Plutôt oui.
À tes joueurs, à tes coquins.
Président?
Oui, ben...
À votre jouet. Allons-y,
chef, il faut qu'on lâche rien. Au tir de
ça va être dur. Je vais aller
d'entendre le Mélisande et Jérôme, c'est plutôt une résurrection.
Il
n'y
a pas plutôt dans la question.
Non, il n'y a pas plutôt. Non, non, non. Mais c'était la réponse de Mélisande. Je mets en confort notre tigresse. Mélisande, Jérôme, qui commence? Honneur à la demoiselle Mélisande, vous prendrez la main. Ludo, Bertrand, vous êtes associé sur cette entreprise de déstabilisation de Kylian.
Ce qui est assez bizarre d'ailleurs.
Oui, mais
parfois il y a des sujets qui rassemblent.
Mais tout arrive. Qui commence, le Ludo ou le Bertrand?
Le PSG décide.
Vas-y.
Ok, avec plaisir.
Ok. Allez, est-ce une résurrection pour Kylian Mbappé? J'ai un oui franc et massif de Jérôme Alonso, mais c'est Mélisande qui va commencer. On vous écoute, Mélisande.
Je suis curieuse de voir quelles critiques vont être adressées à Kylian Mbappé. Je trouve pas qu'il a fait le meilleur match de sa carrière, loin de là, mais on l'attend dans ce genre de match pour qu'il soit décisif, il l'a été. Il tire très bien son pénalty, marque le but qui clôt le débat. Et puis je l'ai trouvé très intéressant dans l'attitude parce que longtemps on lui a reproché à juste titre de vouloir trop en faire, de vouloir faire les différences tout seul.
Non, on l'a pas vu comme ça.
Et là je l'ai trouvé beaucoup plus altruiste et dans la bonne dynamique et dans le bon sens collectif aussi, comme le dit son entraîneur, dans le pressing, dans les efforts. Donc je l'ai trouvé très intéressant.
Ok, on donne la parole à Bertrand Latour. C'est pas une résurrection, alors c'est quoi? On vous écoute.
Son doublé ne m'a pas suffi. Mbappé, effectivement, il tire très bien son pénalty. J'en attendais un peu plus. J'avais l'impression que Mélisande nous décrivait un match d'un joueur qui vaut un 9 dans le journal de l'équipe. C'est pas mon cas du tout. Elle trouve qu'il a été altruiste. Moi, je l'ai trouvé discret, surtout. Je trouve que c'est le joueur parisien offensif qu'on a le moins vu. Son apport statistique est indéniable, mais n'oublions jamais qu'il marque un but alors que son équipe est déjà quasiment qualifiée. Donc, je le relativise aussi. Il n'a pas marqué le premier. Il n'a pas sonné la révolte.
Ok, on passe du côté de la maison. Alonso, c'est à vous de jouer.
Résurrection, ça induit qu'il y aura quelque chose après.
Et c'est là-dessus que je vais aller. Mais ils ont la toulie sur le match, effectivement. Je suis pas fan du match, je suis pas fan encore moins de ce qu'ils faisaient depuis France-Allemagne, ça veut dire quasiment un mois. Mais est-ce que ce match-là peut nous redonner le joueur qu'on aime voir? Moi, je pense que oui. Donc, résurrection, ça veut dire que ce match-là, ces deux buts-là, malgré un match moyen, je trouve, peut le faire basculer dans quelque chose qui peut devenir beaucoup plus grand que ce qu'on a vu ce soir.
Ok. La parole est à M. Obraniak.
Bah, c'est un match où on l'attendait vraiment au tournant. Et si je ne me trompe pas, il y a quelques secondes ou quelques minutes, nous évoquions les MVP. Nous avons évoqué 4 voire 5 noms, nous n'avons même pas prononcé une seule fois celui de Kylian Mbappé, ce qui en dit long quand même sur la qualité de son match. Certes, il y a ce doublé qui existe et il faut le mettre, ce pénalty, et il faut être altruiste, mais il a commencé à exister lorsque le match s'est débridé et lorsqu'il est dans son champ de prédilection, lorsque ça chauffait un peu, on l'a pas beaucoup vu.
Ludovic Obraniak, loué par Bertrand Latour.
Ah ouais, là,
mais tout arrive, mes petits.
Vous avez vu le tandem
là, hein, là, à mon avis, il va falloir se mettre de bonne heure pour venir nous chercher. Mais...
Ah bah oui, je suis assez tranquille pour vous.
Ouais. Comme... Et en plus, avec Johan, ça sera pas évident. Je sais qu'il faut le courir. Il faut aller le chercher. C'est pas évident.
Mais Jérôme est dans le futur déjà.
Mes amis.
Et nos boules de cristal.
Vous tranchez, est-ce que vous avez été sensible à l'un des arguments des 4 chroniqueurs pour donner votre point, mon cher Johan Micou?
Donc, non, fais pas celui qui hésite.
Arrête. Non, parce que j'ai 2 arguments. Le premier, c'était j'ai pas trop vu un leader. Tu vois ce qu'a dit Luis Enrique. Ce soir, j'ai pas trop vu un leader encore une fois, en disant et je rejoins les arguments de Bertrand sur le fait qu'il c'est pas celui qui a sonné la révolte, et je rejoins l'argument de Ludo en disant qu'on a parlé tout à l'heure de beaucoup de joueurs qui ont été vraiment à la hauteur de cet événement-là, et on n'a pas cité son nom. Donc voilà, ça résume son match. Encore une fois, il est passé à côté, pour moi. Il est
passé à côté.
Ah oui, il est passé à côté du match, quoi. Mais après de dire ça,
voilà. Les buts ne comptent plus.
Passer à côté du match, en fait, maintenant on est dans les stats. Donc s'il a mis 2 buts, il a été bon. Non, il est passé à côté de son match encore. Et il peut remercier l'ensemble de l'équipe d'avoir fait le travail pour se qualifier ce soir. Ensuite, ah oui, il met un penalty super bien tiré. Oui, très bien. Et il met le 4e à la 92e, je crois.
87e ou 88e.
Sur une superbe passe de Koundé. Donc, je répète à chaque fois, j'ai l'impression de me répéter, mais j'attends plus, moi, de Kylian Mbappé. Pas plus que ces 2 buts. Parce que c'est bien, c'est un attaquant, tu marques. Mais plus dans le jeu, plus que ce qu'on avait l'habitude de le voir faire par le passé, que je ne vois plus trop. Et alors, il a été altruiste. Bon, certes, mais j'ai pas l'impression qu'il ait tenté beaucoup de choses.
L'un des arguments de Jérôme, qui partage finalement, qui est pas loin.
Mais ça cache pas, le fait que je rejoins. Je pense que ça va lui faire du bien pour la fin. Ouais. Voilà, pour la fin de saison.
La façon dont il tire son penalty, c'est pas tellement. C'est un classique de Kylian Mbappé. La façon dont il fête son but, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose là. Il se débarrasse de quelque chose. Et la fin de son match, parce que c'est vrai que le début du match jusqu'à son but, il est décevant. Mais après, il y a une action.
T'as plus d'espace.
Oui, plus d'espace. Mais on sent un mec qui s'est un peu libéré. Il y avait quelque chose, non?
Qui est le premier.
Non, là, je fais fausse route.
Il est le premier. Donc, du 3-1 au 4-1, il faut qu'il met la main sur le match et on voit que lui?
Non, il a l'action. En plus, moi, je trouve qu'il a l'action du but. Il fait pas encore un grand geste. Quand il est le premier arrêt de Ter Stegen, elle est sur lui, quoi. Tu vois, quand t'arrives à 1 contre 1. Tu dois chercher un angle, chercher croisé, chercher à hauteur. Là, c'est frappé tout droit sur Ter Stegen. Après, il a encore la réussite que ça lui revienne dans les pieds. Bon, après, il a 6 mètres du but. J'ose espérer qu'il y ait un Mbappé avec le talent qu'il a. Il est capable de cadrer, de marquer.
Je pense que dans ce match-là, si sa performance sportive, je pense qu'on se retrouvera tous. Honnêtement.
Non, Méline a trouvé éblouissant. Après, c'est là où vous êtes.
Non, je n'ai pas trouvé éblouissant. Un avant-centre qui a fait un mauvais match.
Détruire,
il y en a eu un
pas
ce soir,
tout.
Et c'était pas Mbappé.
Mais on n'est pas
donc
en train
si
de détruire.
Si tu m'expliques que Mbappé et Lewandowski, c'est le même combat, ok. Mais alors, donc les buts comptent plus.
Mais Lewandowski a 25 ans, je pense qu'il faisait un petit peu plus de choses que ce que j'ai vu ce soir d'Mbappé.
Tout ce qu'il peut faire, et ça lui fera vraiment du bien d'aller au Real. Et à nous aussi, je pense. Tout ce qu'il peut faire, ça ne suffira jamais.
Mais non, mais c'est parce qu'on est en train de dire. Toi, tu nous fais passer pour une critique.
Vous lirez dans Marca ce qu'ils ont pensé du match de Mbappé qui a battu.
Les journalistes, c'est pas une référence.
Non, non, bah,
moi, t'es en train de me dire. Non, mais toi, t'es en train de critiquer ce qu'on est en train de dire.
J'en attends plus.
Non, mais t'es en train de critiquer ce qu'on est en train de dire. T'es en train de rabaisser ce qu'on est en train de dire. On n'a pas dit qu'il a été nul. On n'a pas dit qu'on le met là.
Je suis pas d'accord.
On dit que moi, je l'ai trouvé pas à la hauteur de l'événement.
Mais c'est deux buts, bravo.
Non, mais ça veut dire que
c'est un penalty, un but à la 92e.
Ça veut dire que cette analyse depuis trop longtemps fait que ces derniers temps, on ne le voit plus progresser depuis un long moment. C'est-à-dire que cette analyse de stats permanente, en disant ben, il a marqué 2 buts dans ce match, donc il a fait un bon match.
Ludo, ouais. Justement, c'est pas ça, si on sort de ça.
Il a marqué 23 buts cette saison, ou peut-être
si on
plus,
sort de ça, est-ce que
je trouve que c'est sa pire saison.
Mbappé, je suis fier d'être ici depuis le premier jour. Depuis le premier jour, c'est pas parce qu'il y a des bons moments, des mauvais moments que ma fierté elle prend un coup. La fierté de jouer pour ce club, de représenter le club de la capitale de mon pays, c'est quelque chose de spécial. Moi qui ai grandi ici, donc c'est sûr que vivre des soirées comme ça en tant que Parisien, c'est grand. Mais voilà, on a une étape de plus et il faut rester tranquille.
Sientes más cerca del sueño de ganar la Champions con el PSG?
Sí, sí, sí. Tengo el sueño de ganar la Champions con París, seguro. Es un paso más ahora. Contra un gran equipo, mucha suerte a ellos, pero ahora está para nosotros y vamos a intentar a ir a Wembley.
¿Puede cambiar tu decisión, Kylian? ¿Puede cambiar? Pero en la ida se te criticó un poco en tu país porque no apareciste. ¿Qué les tienes que decir a los franceses después de conducir al PSG a las semifinales?
Que somos listos para ir a la final, que hacemos un gran equipo, que hacemos un gran partido como equipo, como grupo, porque trabajamos durante 6 días después del partido en París, con el staff, con todo el mundo, con la idea que vamos a ganar aquí. Y seguro que es un gran día para el club y enhorabuena a toda la persona del club que trabajan y a los jugadores, el staff y todo el mundo.
¿Cómo?
No, j'ai déjà dit que même si on avait perdu, je suis toujours fier d'être parisien. Maintenant, c'est sûr que dans des soirées comme ça, la fierté elle est encore plus grande. On est très content. On bat une équipe qu'on avait envie de battre. Donc c'est ce qu'on a fait, mais vraiment félicitations au groupe. Comme j'ai dit, voilà, dans une autre langue, on a préparé le match pendant 6 jours avec l'idée qu'on allait gagner, on allait venir se qualifier, donc on est très contents.
La communion qu'il y a avec les supporters à la fin du match,
c'est pour eux aussi, Ils ont fait beaucoup de voyages, on sait que c'était compliqué. On n'a pas été dans l'organisation du match, les places et tout ça, c'était une galère. Donc c'est sûr qu'on a pensé à eux. Et on est très contents. J'espère que tout le monde va rentrer sain et sauf à la maison. Voilà, faites attention, prenez soin de vous, de vos familles. Et voilà, on continue tous ensemble vers les demi-finales.
Kylian, vous pouvez cambier de décision. Alors,
3 réponses. Kylian Mbappé, voilà, c'était la
Il parle très bien espagnol, par contre.
Il parle très bien espagnol. Il parle très bien anglais aussi.
Il est venu après la défaite?
Non, t'es dur.
Non, il n'est pas venu.
Ah, d'accord.
Là, t'abuses un peu quand même.
Ah non, mais parce qu'on me parle. Non, mais ça, c'est un leader, par contre, tu vois. Quand tu perds, tu viens devant la presse et tu parles. Là, quand tu gagnes, tu viens, c'est assez facile.
Regarde.
Ouais, mais ça, c'est.
Non, mais attends.
Non, mais ça rejoint le truc du leader.
Non, mais. On a pris une danse avec l'équipe de France contre les Allemands. Nul, lui le premier, etc. Il est venu parce qu'il est capitaine.
Ah, avant le match.
Avant le match,
oui,
contre
parce qu'il est capitaine.
Non, mais ça tu l'as
non,
dit.
T'es obligé,
non,
ça,
non, non, non. T'es pas obligé. Ah, c'est-à-dire obligé. Non, t'es pas obligé du non. tout. Au Paris Saint-Germain, Marquinhos ne fait pas toutes les conférences de presse d'avant match.
Non, mais
hier c'était
capitaine.
C'est obligatoire qu'il y ait quelqu'un. Loris y allait tout le temps.
Ouais, c'est pour ça que je pensais que c'était obligatoire.
Mais obligatoire qu'il y ait quelqu'un. Donc, il peut y avoir Tchouaméni, Griezmann. Toi, tu peux venir.
Ok. Non, mais juste la partie équipe de France, machin. Mais là, ce soir, il marque un doublé.
Tout ça pour dire qu'il est.
On a débattu. Mais non, il parle à la fois en français, il parle à la fois en espagnol. Donc là,
Il répond aux questions des gens qui sont là.
Non, mais il parle très bien. Quoi.
On peut avoir une opération de communication, de séduction auprès des médias espagnols. Il n'y a pas de problème de ça. C'est pas,
oui, non, mais alors là,
il a pas vendu du beurre aux Allemands en disant ça. Il fait,
non, mais je veux dire, mais vous en faites. C'est-à-dire que là où je te trouve un peu dur, Joanne, et je te le dis.
Mais il est très dur. Il est injuste.
Je ne suis pas dur. Je pose une question.
Oui, mais
je pose une question de savoir si il est dur à la réalité.
Mais les questions, c'est moi qui les pose. Hein.
Non, mais je fais juste une demande.
Si
écoutez Bertrand. Attendez, Bertrand qui sort la tête de l'eau. On y va.
Il vient, donc, notre présentateur fier nous dit il vient.
Oui, voilà.
Parce que c'est une
opération
comme ça, vraiment orchestrée, parce qu'il veut déjà marquer des points.
Mais
s'il
ne
vient pas, c'est un capitaine muet.
Donc,
en fait, ça ne va jamais.
Non.
C'est-à-dire qu'il vient, il fait de la com, il vient pas, c'est un lâche. Il n'a jamais raison.
Non, mais si tu viens pas après une défaite. Non, mais si tu viens pas après une défaite. Moi, j'aurais préféré l'entendre après la défaite au Parc.
Il est venu après France-Allemagne, par exemple. Et là, on nous a dit il vient parce qu'il est obligé. C'était faux. Donc, tu l'aimes pas.
Non, mais pas une histoire d'aimer ou de pas aimer. J'essaie d'analyser ce que je vois. Mmh. Donc voilà, un leader, pour moi, tu viens après une défaite.
Et tu parles.
Tu vois, le président de Paris, ou... il vient quand ils ont gagné 3-0 à Paris, à Marseille, là, enfin.
C'est vrai.
On l'avait pas entendu pendant 6 mois, puis là, il a débarqué.
Mais je suis sûr que s'il avait perdu, il serait venu aussi.
Ah ouais.
L'an dernier, lors du match contre le Bayern, lors du huitième de finale.
On va rechercher toute
la chance de passe. Il parle, il vient, il dit, eh bien, notre niveau, c'est ça.
Oui, c'est vrai.
On se souvient de ça. Il avait dit, je suis désolé, mais notre niveau, c'est.
Bon, je me suis trompé. J'ai juste demandé de poser une mauvaise question. Je suis désolé.
Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de mauvaise question. Il y a toujours des bonnes réponses.
Cédric nous a dit que c'était un vrai leader. On l'a senti sur le terrain. Donc là, il ne nous raconte pas ce qu'il veut.
Il y a une communication sur Twitter de Kylian.
Ah oui. Attendez.
Ah, vous l'aviez oublié, ma petite Virginie.
Non, je l'ai pas.
C'est pas fini la soirée, ma petite Virginie. Attention.
Regardez. Non, mais après, communication sobre, c'est du Kylian Mbappé.
Ah, c'est quoi?
Nous sommes le Paris Saint-Germain.
Eh ben voilà.
Toujours lui, quoi.
Voilà.
Oui. D'équipe, c'est bien.
Oui.
Il faut tout saler.
Il a dit Ludo, je me mets un carton.
Le président s'auto exclut.
Je peux pas.
Luis Enrique, il a loué. Alors, c'est pas forcément l'avis de certains sur le plateau, mais il a loué l'attitude de Kylian Mbappé. C'est un leader d'équipe. Est-ce que le président en doute? Mais vous l'avez vu en leader d'équipe ce soir?
Pour moi, le match il bascule grâce à Barcola et Vitinha. Mais Barcola, c'est lui qui a mis les premières banderies, c'est lui qui a...
Il a loué ses efforts aussi.
Typique.
Pardon, Luis Enrique a loué...
Et Marquinhos.
Jérôme.
Oui, mais sur
Jérôme. Offensif. Luis Enrique a loué les efforts de Kylian Mbappé. Voilà, il a loué l'attitude.
Pour le coup, ça ne m'a pas sauté aux yeux.
Ça ne vous a pas sauté aux yeux, mais
okay. Si, le cercle au début du match, où c'est lui qui parle et qui motive.
Ah oui,
ce n'est ça... Ouais, bah, c'est horrible.
J'avais pas pensé à ça.
Donc, moi, le cri de guerre aussi à mi-temps.
Bah, c'est ça.
Non, mais là, vous êtes dur.
Non, mais il y a que ça.
Là, faut arrêter de parler de lui parce que là, vous l'enfoncez.
Mais non, mais.
Là, vous l'enfoncez sans faire exprès.
Dans le match, à quel moment t'as
mais vu. Mais non, mais je suis d'accord avec vous. De toute façon, après,
dans le début.
D'ailleurs, Luis Enrique, il fait une réponse d'une phrase et après, il enquille sur une personne sur laquelle il n'avait pas été interrogé. C'est assez révélateur. Il va pas se mettre le feu à nouveau en critiquant Mbappé alors qu'il lui a marqué 2 buts et qu'il est en demi-finale. Enfin, je veux bien.
Il y a d'autres joueurs qui ont mis le PSG dans le bon sens lors de la première demi-heure.
Il est branché sur Kylian Mbappé, il fait une réponse politique pour vous alors.
Oui, mais comme il dit Bertrand, il va dire.
Ah, vous êtes sorti de maison, vous.
Je sais pas, apparemment, je me suis vu sans les barreaux. J'ai pas eu de musique.
Excusez-moi, allez-y, pardon. Allez-y.
Non, mais il va pas dire. Oui, je l'ai pas vu du match, c'est bien, il a mis 2 buts. Il est obligé de dire ça. Mais nous, ça va, on l'a vu. Enfin, je pense que tout le monde l'a vu, que sur le terrain, ça n'a pas été le Kylian Mbappé des grands soirs, non? Bon, enfin, pour Mélisande.
Non, je sais pas.
Parce qu'il a mis 2 buts. Un pénalty et une action. Ou il y a Koundé, je sais pas
ce que c'est.
Les notes de l'équipe du soir. Mbappé a marqué un but sur une résurrection. Ce n'est pas une résurrection.
Enfin, les gens qui nous regardent donc quand même connaissent le football, quoi.
Les notes de l'équipe du soir, ça sera juste après la pause. On a pas mal débordé, ne vous inquiétez pas. Nous finirons à 1h du matin.
Il y a un quiz ce soir.
On a encore une demi-heure ensemble. Allez mes petits, on marque une pause. Allez, on y va. Mes amis, Paris est en demi-finale de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain donc a sorti le Barça. Prochain adversaire, demi-finale, c'est les retrouvailles avec Dortmund. Dortmund qui a éliminé l'Atlético Madrid. C'est le début avec un léger retard du minuit info.
Bonsoir Mémé, bonsoir tout le monde. Soirée de folie pour les Allemands. À la 34e minute, on a Hummels qui trouve Julian Brandt d'un magnifique extérieur du droit. Le milieu crochette puis marque en angle fermé. 39e, Madsen trouvé par Sabitzer s'engouffre dans la défense et ajuste Oblak pour faire le break et prendre l'avantage. Un CSC dès la reprise vient tout chambouler. Corner tiré par Griezmann, dévié par Hermoso et repris par Hummels. Correa permet aux Madrilènes de reprendre le dessus à la 64e après une première frappe de Riquelme. Mais Füllkrug marque à son tour d'une belle tête à la 71e. La frappe de Sabitzer 3 minutes plus tard pour mettre Dortmund à l'abri et se qualifier pour les demi. Victoire 4-2.
Des retrouvailles entre Dortmund et le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain s'est imposé au match aller au Parc des Princes sur le score de 2-0. Un partout du côté de Dortmund lors du match retour. Ça, c'était la première phase. Des retrouvailles, c'est un bon signe, un bon présage.
C'est pas le même Dortmund déjà en septembre et en décembre quand ils se sont retrouvés. Mmh. Et c'est encore plus le même maintenant. Je pense que Farid est favori quand même. Mais ne gardons pas l'image du Dortmund du match aller des poules. C'est plus du tout le même.
Ça reste quand même une aubaine.
Évidemment. Ils disent que c'est pas le même Dortmund en septembre. Évidemment, déjà que le match retour, ça a été pénible, rappelle-toi. Mais oui, c'est.
Bah, c'est fait.
Comme Dortmund en demi. T'as fait Real Sociedad en 8.
Match retour.
Tu fais Dortmund en demi.
C'est inespéré.
C'est inespéré.
C'est inespéré, c'est fait, vous, Bertrand.
Non, mais je provoque un peu. Non, mais enfin, là, c'est Dortmund,
pas là, ouais.
Dortmund en demi-finale, ce Dortmund-là.
Ah oui.
On va s'en remettre 30 secondes quand même. Enfin, non, mais enfin, je sais pas. Non, mais. Je suis sérieux. Pour moi, le PSG a de la marge sur cette équipe-là. Moi, je suis quand même pas le premier des optimistes. D'une manière générale, j'y croyais pas avant ça. J'y crois jamais à rien. Là, honnêtement, je suis optimiste et je me dis que cette équipe a vraiment de la
Bertrand,
marge.
L'Atlético de Madrid, si l'Atlético était passé.
Ah là, méfiat. Oui. Pas pareil.
Méfias.
Ah oui,
méfiat. C'est même plus la méfiance.
Ah oui, la méfiance.
La méfiance croisée avec la chasse.
Non,
la méfiat. C'est le truc terrible.
Oui, j'ai dit méfiat, hein, j'ai pas dit méfiat.
Ah, d'accord.
J'ai dit méfiat. Bah oui, quand même.
Méfiat, d'accord.
Effectivement, l'Atlético, ça m'aurait fait davantage peur, parce qu'ils sont, ils en ont plus souvent l'habitude, ils ont davantage de joueurs de classe mondiale. Pour autant, ça leur a pas suffi, puisqu'ils se sont fait éliminer, donc voilà. Mais. Non.
Mes petits. Mmh. À chaque fois, qu'on traite des clubs de la Bundesliga, il y en a que ça gonfle.
Mais alors,
c'est le président.
J'adore les Verkusen.
Je pense que ça aurait été plus dur contre l'Atlético, mais après, je sais plus quoi penser en fait.
Pourquoi là,
tu as l'Atlético, tout le monde dit c'est solide, nous on est premiers, et puis ils en prennent 4
mais à Dortmund. Ils prennent des buts maintenant.
Solide l'Atlético.
Ouais, mais c'est moins solide, mais j'ai vu contre l'Inter, c'était très solide, très costaud, et là ils ont été dépassés.
À côté, ouais.
Ils ont fait une très bonne première mi-temps à l'aller, et après la deuxième mi-temps, ça partait dans tous les sens du côté de Dortmund, et ça a été un peu le même match ce soir. Dortmund a eu un creux, ils sont revenus, mais après c'est reparti de l'avant. Et je sais pas quoi penser. Alors j'étais plutôt dans l'avis de Bertrand, mais maintenant ce Dortmund-là, c'est un club qui, quoi, une équipe qui est capable de faire des superbes matchs et le match d'après de passer à travers. Donc je sais pas à quel niveau ils seront contre le PSG, parce que c'est une équipe qui offensivement se crée énormément d'occasions et part dans tous les sens, quoi. C'est-à-dire que tu as un centre, tu peux te retrouver avec l'arrière droit, l'arrière gauche, Hummels qui est dans la surface, on ne sait pas pourquoi, mais ils sont tous à 5-6, donc ça peut être compliqué. Après, c'est une équipe qui est quand même ouverte, qui joue, donc ça peut arranger le PSG par rapport à son jeu rapide, quoi.
Mais il y a un vent d'optimisme qui souffle sur ce plateau, Mélisande Gomez. Ah non,
ben on est oui, d'accord. Évidemment, hein. Évidemment que Dortmund-là, c'est une équipe qui est prenable. Tu joues City ou Real en demi-finale, c'est pas la même chose. On le savait avant ce match contre Barcelone que c'était la bonne partie de tableau. Il y a eu un catastrophisme après le match aller. Il ne faut pas non plus tomber dans l'euphorie ce soir après le gros match du PSG de ce soir. Mais c'est sûr que tu dis que c'est quand même un match très abordable.
Et pour une demi-finale.
Pour une demi-finale du Ligue des Champions, effectivement, tu as eu un tirage favorable depuis les huitièmes, ce qui n'aurait pas souvent arrivé quand même aussi au PSG. Et là, c'est l'occasion d'en profiter.
Et en plus ils ont déjà, le PSG a déjà 2 buts. Dembélé à l'aller, Dembélé au retour. Quand son ancien club, il marque à chaque fois. Là, c'est imparable. Il va se faire siffler tout le match là-bas et ça va l'exciter. Ça, je vous le dis, c'est sûr. Je ne suis pas sûr qu'il va marquer. Mais c'est drôle pour lui. Enfin, qui est le MVP de ce match-là, d'avoir coup sur coup quand même tes deux anciens clubs, c'est assez rare quand même. Puis après, ils joueraient dans la finale et c'est magnifique.
Non, ah,
mais ça c'est mieux non, fini à Dortmund.
Il va se faire siffler.
Mais ils ont fini premier quand même dans la poule.
Oui.
Dortmund.
Devant le Paris Saint-Germain. Jour symbolique pour les.
Ah, donc sur favori donc.
Ils ont fini premier quand même.
Oui, donc sur favori.
Non, je dis pas ça.
Non, donc tu dis quoi en fait ?
Je
suis d'accord avec Bertrand et après tu dis. Ah, mais ils ont fini premier, donc tu penses quoi en fait ?
Je fais une piqûre de rappel.
Ah, d'accord.
T'annonces quand même.
C'est la fameuse méfiasse. La petite méfiasse. Jour symbolique pour les JO de Paris, la flamme olympique. Est officiellement allumée.
Elle a été artificiellement depuis le site d'Olympie en Grèce. Le ciel était trop nuageux pour l'allumer via les rayons du soleil, comme le veut la tradition. Le premier porteur l'a transmise à Laure Manaudou, moment symbolique pour la nageuse française 20 ans après son sacre aux JO d'Athènes de 2004. La flamme va maintenant traverser la Grèce pendant 11 jours avant de rejoindre Marseille le 8 mai. Et puis les régions françaises qui ont accepté. Elle passera aussi par les Antilles.
Ça me rappelle le dernier barbecue de Jérôme Alonso. Attention, ça va. C'est bon, ça prend là. Voilà. Et jour de tirage au sort pour les équipes de France Olympique de handball.
Les hommes tenants du titre seront dans le même groupe que leur grand rival, le Danemark, champion du monde en titre, avec la Norvège, la Hongrie, l'Égypte et l'Argentine. Phase de poule du 27 juillet au 4 août. Et puis les filles tenantes du titre aussi ont hérité du Pays-Bas, de la Hongrie, de l'Espagne, du Brésil et de l'Angola. Phase de poule pour elles du 25 juillet au 3 août.
Le retour de Rafael Nadal aujourd'hui à Barcelone, un retour expéditif.
Après 631 jours sans avoir vu la terre battue, le Mallorcain a maîtrisé sa partition, ovationné dès son entrée sur le central qui porte son nom. Il lui a fallu un peu moins d'une heure et 25 minutes de jeu pour écarter l'Italien Flavio Cobolli, 62e mondial. Il a vite pris le large en menant 6-2-4-1. Il s'est baladé sur ses trois derniers jeux de service, jamais secouré dans ce premier rendez-vous. Son deuxième tour face au 11e mondial Alex de Minaur en dira beaucoup plus sur les hauteurs que l'Espagnol est en mesure d'atteindre dans ce tournoi qu'il a remporté 12 fois.
La dernière fois, c'était en 2021. Et on sera là. Tour des Alpes, deuxième étape pour un Italien.
Alessandro De Marchi, qui l'emporte en solitaire. Il attaque à 19 km de l'arrivée pour filer tout seul et arracher sa 7e victoire en carrière. 3 ans après avoir remporté les trois vallées varésines. En 2010, il avait aussi pris 3 étapes sur la Vuelta. Tout cela s'est passé sur la chaîne L'Équipe. La suite, c'est aussi demain chez nous, 12h30. Tobias Foss garde son maillot vert de leader.
Merci beaucoup Virginie. Les notes de l'équipe du soir, c'est parti pour un petit tour. Vous prenez le contrôle de l'émission et le premier joueur que l'on va noter ou que vous avez noté en main, c'est le capitaine Marquinhos. Marquinhos obtient la note de 7. 7, oh, c'est 8, un 9, 9, bon match.
Tu mets 9.
9, c'est un match exceptionnel pour Johan Micou. C'est un très bon match pour votre ville-peuple. Ouais. Jo, passion Marquinhos, c'est nouveau, tout arrive.
Non, pas passion, parce que moi j'essaye de dire ce que je vois. Alors là, je vois le Marquinhos que j'aime, qui monte, qui accompagne son équipe, qui a étouffé Lewandowski en duo avec Hernandez. Donc j'ai aimé ce Marquinhos-là et j'espère le revoir plus souvent pour pouvoir dire du bien de lui. Après, quand il est 15 mètres derrière tout le monde, qui fait reculer l'équipe, ben, je le dis aussi. Voilà.
Et ça vous gonfle. Ok, très bon également.
Et je trouve qu'il va très vite aussi. C'est pas un défenseur lent. Mmh. Donc c'est pas un problème pour lui de jouer haut. Quoi. Mmh. Voilà.
Ok. Merci,
bonne soirée.
Donnarumma, c'est un bilan, on va dire, plus mitigé. C'est un match moyen. C'est satisfaisant.
Il fait pas d'erreur.
J'ai vu sur
la gauche. Là.
Bon, il a fait une sortie quand même sur la faute où il aurait pu avoir un
penalty. Le match peut tourner, mais est-ce que c'est une erreur?
Et sur le but, si tu l'as trouvé, comment?
Il est très fort là, il ne peut pas rien faire.
Il est bien positionné?
Bah, il peut pas être ailleurs.
Il peut pas être ailleurs?
Sur le but?
Non, je sais pas.
Ben, il colle son poteau.
Ouais.
Tu veux qu'il fasse quoi? Il peut participer parce que le mec peut la mettre là. Donc il est là et il se dit, ok, s'il me la met fort dessus, au près, j'irai mettre le pied. S'il la met fort dessus, je vais la prendre dans le buffet. Et puis si elle s'entre en retrait, elle s'entre en retrait. C'est plus aller jouer.
Ouais,
sur le but, il n'y a rien à dire.
Le centre en retrait, c'est la faute plutôt d'Hakimi alors.
Et puis au départ de l'action de Nuno.
Ouais, okay. Oui, oui. Ouais.
Mais pour moi, Donnarumma sur le but, il n'a rien à voir. Non.
Est-ce que cette réponse vous a.
Oui, tout à fait. Je demandais l'avis.
D'accord.
Mais tu veux un avis de gardien ou pas?
Barcola, Bradley Barcola.
Petit,
préparez vos notes. On va aller voir Giovanni. Bradley Barcola, c'est 7,6. C'est entre un bon et un très bon match. Vous lui mettez combien? Bon, c'est 7. Très bon, c'est 8. 9, c'est exceptionnel. Giovanni, je vous écoute.
C'est lui qui démarre le truc quand même.
Oui, après.
Moi je vais lui mettre 8 parce que pour le coup il a été lui contrairement à Mbappé, alors dans les stats Mbappé a été impeccable, mais je trouve que les deux joueurs qui ont été exceptionnels ce soir sur l'aspect offensif, si je dois prendre la ligne d'attaque, c'est Ousmane Dembélé, mais aussi Barcola, honnêtement, il a fait un match exceptionnel, il a fait d'énormes différences dans le travail sans ballon, il est très très fort, dans le pressing, il est toujours appliqué, il a pas peur. Quand je vois la trajectoire que prend ce garçon, qui soit un joueur décisif, joueur clé pour le Paris Saint-Germain en quart de finale, retour de Ligue des Champions, alors qu'avant de signer au PSG, il avait fait que 6 mois au très haut niveau à l'Olympique Lyonnais, je le trouve bluffant. Il est de retour de blessure, il revenait sur le match aller déjà dans son entrée au Parc des Princes, il avait été bon, mais là ce soir, il a été bluffant d'abnégation, de courage et de culot.
Merci beaucoup. On note Bradley Barcola, mais
c'est
lui, oui, 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 mais vous étiez, voilà, 8. Vous êtes d'accord avec Giovanni Castaldi, oui. Entre la vision de la télé et la vision de notre envoyé spécial, il n'y a pas une iota différence. Barcola 7-6, on l'a noté, mes petits. Hakimi, tiens. Achraf Hakimi, vous lui mettez combien?
5.
6-3, c'est pas le premier 7, mais c'est satisfaisant. C'est 6-6-6-6 également.
Entre 5 et 6, mais je cherche mon 6.
C'est le 6
et ouais, j'étais entre 5 et 6, moi.
Ouais.
Je sais pas. Plutôt prudent. Sur le but, je trouve pas décisif.
Il a fait une belle frappe.
Il est fautif sur le but.
Une belle frappe qui a failli surprendre
Ter Stegen, frappe flottante à la 50e.
Il fait un match correct.
Mais ouais, sérieux.
Voilà, sérieux.
Sérieux, sans plus.
Ben bon.
Donc pour vous, c'est satisfaisant, ça?
Oui.
Non, mais je veux dire.
Non, mais ça va.
disons que le score à la fin le sert parce que sur le but quand même il est 70% peut-être pour
c'est lui qui amène pour, ce ballon là, c'est lui qui
pour Nuno. Non, sur le but que concède le Paris Saint-Germain. Ouais. Bon, il se fait bien devancer par le copain quand même, donc par Rafinha. C'est pour ça que moi je lui mets 6 parce que en fait pour moi c'est un 5 qui t'as gagné 4-1 machin, tu mets 6 mais c'est
okay, d'accord.
Ça pas quoi. 4 points d'écart.
C'est servi par les circonstances de la rencontre et le résultat en faveur du Paris Saint-Germain. Vitinha, Giovanni, dernière intervention. Giovanni, Vitinha, vous lui mettez combien ce soir? C'est 7-4 pour l'ensemble des téléspectateurs.
Moi, je lui mets 8. Ah non, c'est 8 parce qu'il met quand même le but du 2-1. Alors, je veux bien que la défense du Barça ait les laissé tirer, mais il met encore un but très important, que dans la maîtrise du tempo, il a jamais peur, il a jamais les jambes qui tremblent, il est impeccable. En plus, c'est un joueur qui est vraiment généreux. Alors, avant, dispersé, il est de plus en plus intelligent dans ses courses pour compenser, il récupère un nombre incalculable de ballons, il fait quasiment tout le temps les bons choix sur la phase retour du PSG, phase aller, il y avait Dembélé et Donnarumma qui étaient très forts, très réguliers. Depuis le mois de janvier, je trouve que le meilleur parisien est de loin, c'est Vitinha, et il la confirme ce soir, grand coup de chapeau à lui. Non, pour moi c'est un 8, 9 c'est un peu excessif, non mais un bon 8.
Giovanni Castaldi, c'est votre dernière intervention, si vous êtes particulièrement brillant ce soir, c'est qu'il y avait du soleil à Barcelone, mais c'est que vous étiez surtout mis en lumière et en image par Jérémy Jeannin Gros derrière la caméra, que je salue.
Il passe au travers.
Merci beaucoup les copains.
Et le PSG quand même fait sa saison avec des joueurs qui ont été beaucoup critiqués la saison dernière, qui étaient peut-être un peu étouffés et tout. On parle de tout le monde critique Ruiz, mais il est titulaire, il fait tous les matchs. Il y a Vitinha qui est décisif, etc. Donc ça montre aussi que quand on te met un petit peu en confiance dans un groupe, dans une équipe, tu peux être performant.
Et okay. Kylian, combien aura-t-il dans l'équipe?
Ça sera l'occasion d'acheter le journal de demain. Non,
il faut pas.
Porteur de flamme à présent. Et puis Virginie a une autre édition spéciale à vous montrer. Ça sera vendu demain avec le quotidien.
C'est officiellement J-100 avant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et donc, il y a ce supplément collector à retrouver demain dans l'équipe. C'est 100 pages pour revenir sur 100 ans de Jeux Olympiques depuis les JO de Paris 1924. Je suis en train de le feuilleter depuis tout à l'heure, c'est très intéressant.
Et on vous rassure, les photos, il y a beaucoup d'images aussi, donc c'est à votre portée. Hein.
On n'a pas le temps de feuilleter la centaine de pages, mais on vous conseille. Maintenant, c'est le quiz.
Voilà.
Oh. Le thème du soir avec les deux jokers pour Bertrand. J'ai disputé une demi-finale de Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Okay.
Fin du quiz, à quelle heure? Parce que c'est pour savoir combien il y en aura. Non, mais c'est pour savoir.
Trois minutes.
C'est important, ça compte pour mes jokers.
J'ai disputé une demi-finale de Ligue des Champions avec le PSG. Okay. Pour 4 points, j'ai joué en France et en Angleterre. De qui s'agit-il?
Ginola,
bonne réponse de Bertrand Latour. C'est 4 points, il ouvre le score.
Mon grand, bien sûr. J'élimine Johan Micou.
Johan est éliminé.
Je te félicite. Tu m'élimines.
Autre joueur ayant déjà disputé une demi-finale de Ligue des Champions avec le PSG. Un indice, pour 4 points, j'ai joué ce soir.
Bon, oui, c'est facile.
Mbappé,
4 points.
Allez, Mélia.
C'est porte ouverte.
Allez. Okay.
J'ai disputé une demi-finale de Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Premier indice, je suis un numéro 10 de légende.
Rai.
Bonne réponse de Jérôme Alonso.
Là-bas, d'abord.
Non, mais bien sûr.
Si t'as dit.
Il a dit avant.
J'ai disputé une demi-finale de Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Je suis titulaire lors de la double confrontation face à l'AC Milan. En 1995, mais de qui s'agit-il?
Je suis titulaire
lors de la double confrontation face au Milan AC en 95.
Vincent Guérin,
ce n'est pas lui, puisque mon parcours pour 3 points, c'est Brest, Nantes et le Paris Saint-Germain, Paul Le Guen. 3 points pour le
Saint-Germain. C'est son idole.
J'ai remporté la Ligue des Champions en 2014. J'ai remporté la Ligue des Champions en 2014 et j'ai fait une demi-finale avec le Paris Saint-Germain.
Di Maria,
4 points.
Allez, c'est du chocolat, ça.
Attention, non, c'est du Latour. Mes petits, j'ai joué à Paris et à l'Olympique de Marseille, notamment.
Bien sûr.
Et j'ai disputé une demi-finale de Ligue des Champions. Mais aussi à Nice, Lyon et Monaco. De qui s'agit-il pour 3 points? Nice, Paris, Lyon. Marseille, Nice, Lyon et Monaco.
C'est horrible.
Pour deux points, je suis consultant désormais.
Daniel, bravo, c'est bon, c'est la tour. 8 et 2, 10.
Il a dit Daniel.
8 et 2, 10.
Bravo, bravo.
Non,
non, non, non, on me
dit. Dernière question.
Miku, Miku,
dernière question.
C'est Bertrand.
Miku, Miku, deux points.
Il a commencé à répondre en
premier. J'ai dit bravo.
Bravo,
j'ai dit bravo. Il a qu'à dire plus fort.
C'est Bertrand.
J'ai joué le dernier. J'ai joué 8 ans à Paris.
Marquinhos.
Marquinhos, non, c'est pas lui.
Allez, troisième indice.
Thiago Silva.
Thiago Silva, 4 points.
Oh, mais c'est horrible. Mais c'est horrible. Je te le donne. Je me fais partir dans l'équipe du soir. Dans l'équipe du soir, c'est un truc de fou.
Merci Thiago Silva. J'adore Thiago.
L'émission a été très bonne. Vous avez été pris un carton rouge par Bernard Mendy. Et vous avez été humilié par Jean-Michel. Mais petit silence. Mais petit silence. On se quitte avec notre chouchou. C'est un artiste qu'on aime et qu'on soutient. C'est Basile Pallas, le fils de Xavier Richer. Son nouveau titre se nomme 1000 morceaux, oui. À dispo sur toutes les bonnes plateformes d'écoute.
Basile, pas
Basile, c'est à vous. On t'embrasse, mon petit biquet. Ciao. Écoutez. Mais je sais que tu sais que ce n'est plus la peine. Et mon cœur se